Vous êtes sur RTL.
C'est à lui de vous accompagner jusqu'à 9h30. Bonjour.
Merci
Yves.
Beaucoup Julien. Bonne journée à vous, à toute l'équipe des Petits Matins. Et bienvenue à nos auditeurs. Un rendez-vous tout à fait particulier ce matin dans notre session d'information. Dès 7h15, notre reporter Nicolas Burnand donne la parole à ses petits patrons qui, malgré les aides gouvernementales, se sentent totalement dépassés ou déboussolés par la crise. Des situations très concrètes pour des chefs d'entreprise qui n'ont pas l'habitude de demander une quelconque prise en charge et ne savent compter que sur leur travail. Un dispositif gratuit a été mis en place par l'association APESA. Elle offre un soutien psychologique à ses chefs d'entreprise en détresse, des témoignages nécessaires et très émouvants. À 8h20, nous écouterons donc aussi le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. Il reviendra sur les conséquences économiques et sociales d'un éventuel reconfinement. Nous ferons le point avec lui. Autre voix qui s'exprime ce matin sur RTL, au micro d'Alba Ventura, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Il souhaite représenter la droite à l'élection présidentielle. Une droite qui n'a pas encore désigné son héros. Il commentera bien entendu la situation sanitaire dans notre pays dès 7h40. Pour vous détendre, les grosses têtes à 7h25, Laurent Gérard à 9h, moins le quart, sans oublier la gourmandise de Cyril Lignac juste avant 9h. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021. Très bonne journée à tous. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Quelle victoire et quelle course. Après 80 jours de mer, le Vendée Globe a donc sacré son champion.
Il s'appelle Yannick Bestaven. Ce n'est pourtant pas lui qui a franchi la ligne le premier, mais le jeu des compensations a fait le reste. Nous rejoindrons en direct Frédéric Veil au Sable d'Olonne dans un instant. Il faut donc s'y préparer. Le reconfinement est désormais inéluctable. Reste à connaître son ampleur. Plusieurs scénarios sur la table et toutes dernières infos dans ce journal. Et comme un signe révélateur, les carnets de rendez-vous des coiffeurs se remplissent à grande vitesse. Un dernier coup de ciseau avant peut-être la fermeture. La fin d'une aventure qui aura duré 28 ans. Renault abandonne la Twingo. La version électrique sortie à l'automne sera la dernière. Et puis la victoire douloureuse des Bleus du Hand hier soir en route. Désormais pour les demi-finales du Mondial.
La politique, dès la fin du journal avec vous Olivier Bost.
Pourquoi l'Élysée et Matignon n'ont pas toujours le même calendrier dans la crise du Covid?
On se retrouve dans 10 minutes.
RTL Matin.
Le feu d'artifice tiré aux aurores ce matin depuis la jetée des Sables d'Olonne pour célébrer comme il se doit la victoire de Yannick Bestaven après plus de 80 jours passés en mer. Le skipper qui a fêté ses 48 ans le mois dernier seul au milieu des mers du Sud vient donc de se voir offrir son plus beau cadeau. Il remporte cette 9e édition du Vendée Globe. Frédéric Veil, on vous retrouve sur place. Vous l'avez suivi cette arrivée, cette course totalement dingue, car il faut l'expliquer, hein, ce n'est pas Yannick Bestaven qui a franchi la ligne d'arrivée le premier, mais c'est lui qui va soulever le trophée.
Ah oui, et tout ceci au terme d'un scénario complètement fou, débuté hier soir à 20h35 lorsque Charlie Dalin est le premier skipper à franchir la ligne, heureux et soulagé, mais deux hommes le menacent, l'Allemand Boris Herrmann et le Rochelais Yannick Bestaven, qui ont respectivement 6 et 10 heures de bonification. Herrmann joue donc la victoire, mais à 20h50 et alors qu'il s'est assoupi dans son monocoque, il percute un chalutier espagnol au large des sables. Bateau endommagé, espoir envolé, il ne sera pas le premier Allemand à emporter le Vendée Globe, d'autant que Yannick Bestaven met le turbo et dans les dernières heures, il franchit la ligne après Louis Burton. Sur l'eau, Bestaven finit troisième, mais sur le papier il termine premier grâce à ce jeu des bonifications qu'aucun skipper ne conteste, car c'est dans le règlement de la course. Yannick Bestaven, au bout de cette nuit folle, remporte donc cette 9e édition et devient à 48 ans le plus vieux skipper à remporter le Vendée Globe.
Frédéric Veil depuis les Sables d'Olonne pour RTL.
Le couvre-feu avancé à 18h n'aura donc pas suffi à freiner l'épidémie.
En conséquence, il y aura, c'est une certitude, désormais un nouveau confinement dans les jours à venir. De quelle ampleur? Plusieurs scénarios à l'étude, dont celui d'un confinement très serré sur le modèle du printemps dernier. Ce sont bien les variants qui imposent à l'exécutif aujourd'hui un changement de stratégie. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Car les derniers chiffres sont particulièrement inquiétants, notamment ceux d'un test réalisé début janvier et dont les autorités viennent d'avoir le résultat. Expliquez-nous.
Alors en fait, ce sont les résultats de l'étude Flash réalisée les 7 et 8 janvier dernier. Tous les tests positifs ont été analysés pour savoir exactement combien de cas de variant anglais circulaient à ce moment-là sur le territoire. Ces conclusions ont donc été bouclées hier et elles sont plus inquiétantes que prévues. Début janvier, le variant anglais représentait 3,2% des tests positifs. Ça paraît peu, dit comme ça, mais rappelons qu'on tablait plutôt sur 1,4% jusqu'alors. Et si l'on fait un rapide calcul, ça veut dire qu'il y avait 770 nouveaux cas de variant britannique chaque chaque jour dans notre pays, plus du double de ce que modélisaient les scientifiques. Mmh. Inquiétant, d'autant que depuis, ce variant bien plus contagieux a eu 3 semaines de plus pour se propager.
Alors une étude qui sera décortiquée tout à l'heure par le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'entretiendra à 11h avec le directeur général de la Santé, le président du Conseil scientifique et d'autres experts. Agathe, on attend également d'autres chiffres sur les effets du couvre-feu, cette fois normalement ce week-end.
Oui, et jusque-là, on sait que le couvre-feu, ça marchait pas trop mal. Dans les 15 départements où il a commencé plus tôt, l'épidémie a progressé, c'est vrai, moins vite. On aura en fin de semaine donc les premiers effets du couvre-feu national, mais on sait d'ores et déjà qu'au regard de la propagation du variant anglais, ce ne sera pas suffisant. De nouvelles mesures sanitaires seront donc incontournables si l'on veut garder le contrôle sur l'épidémie.
Merci pour ces explications, Agathe Landais. Un restaurateur niçois a lui été placé en garde à vue. Il avait décidé hier d'ouvrir son établissement et de servir des repas à ses clients à l'heure du déjeuner malgré l'interdiction. La préfecture des Alpes-Maritimes promet que toutes les personnes qui pourront être identifiées grâce aux caméras de vidéosurveillance seront verbalisées.
C'est un signe là encore qu'il ne trompe pas. Hein. Les carnets de rendez-vous des coiffeurs sont pleins.
Ouais, les Français commencent à en avoir l'habitude. Pas question de revivre le cauchemar capillaire du premier confinement. Reportage à Suresnes, près de Paris, Valentin Boisset.
Impossible de prendre un rendez-vous sur Internet.
Je ne pouvais pas prendre de rendez-vous pour mon fils, il n'est pas pris pour moi.
Le standard de Sonia, la coiffeuse, a été pris d'assaut en quelques heures.
C'est très gentil. Merci.
Votre petit agenda, on peut regarder un peu.
On va revenir la semaine dernière, le mardi. Voilà, c'est une journée assez calme. Si vous regardez cette semaine, on est complet.
Une fois la file d'attente traitée, la coiffeuse se remet à la taille des pointes de cheveux de Jean, un retraité.
Bah, j'ai fait une coupe de cheveux.
Fier d'avoir pu anticiper cette fois-ci.
On parle de confinement, donc on est obligé de s'adapter. C'est pas l'effet de surprise, si vous voulez.
Tout le monde s'est organisé pour cette semaine.
Il y a un peu cette idée de souvenir qui remonte à la surface.
Hein. Voilà, ils veulent pas comme le premier confinement.
Dans ses discussions avec les clients, Sonia le remarque, il y a désormais une habitude à ces régimes de confinement et un souvenir pour certains traumatiques des états capillaires de mars dernier. C'est ce qui a poussé Jean-Louis à venir au plus vite.
C'est vrai qu'on se regardait dans la glace, ça fait un peu bizarre. Quoi. Troisième confinement, c'est une habitude, tous les gens sont obligés de s'organiser.
Sonia a beau avoir raccourci chaque séance dans les prochains jours, ce salon n'a désormais plus de créneaux disponibles avant la semaine prochaine.
Un reportage de Valentin Boisset. Une nouvelle réunion s'est tenue hier en fin de journée entre la Commission européenne et le laboratoire AstraZeneca après les retards annoncés sur le vaccin. Malgré les commandes passées par Bruxelles, vous le savez, les États membres risquent de ne pas être livrés en temps et en heure, ce qui pour certains pays serait une catastrophe. En Espagne, par exemple, les stocks sont déjà vides dans certaines régions alors que l'épidémie s'est encore accélérée ces derniers jours. Diane Cambon.
Plus un seul vaccin contre le Covid en stock, c'est l'annonce que vient de faire la région de Madrid et la Catalogne qui vont suspendre la campagne de vaccination durant les 2 prochaines semaines. Seules les deuxièmes doses seront administrées et encore quand cela est possible. Le problème provient des laboratoires. Depuis quelques semaines, l'Espagne reçoit la moitié des doses qu'elle a commandées, soit seulement 24 000 doses par semaine. Le gouvernement socialiste qui met la pression pour que les livraisons s'accélèrent est au centre du débat. Les régions l'accusent de mal gérer les stocks. Ainsi, Madrid avertit qu'elle ne prendrait pas de restrictions sanitaires supplémentaires pour freiner l'épidémie, considérant que c'est à l'exécutif central de résoudre le problème des vaccins. À ce rythme-là, seulement 10% de la population madrilène aura reçu le vaccin cet été. On est bien loin des 70% annoncés il y a quelques semaines par les autorités publiques.
Diane Cambon, la correspondante de RTL en Espagne. Et puis reporté, mais pas annulé pour l'instant. En tout cas, le Festival de Cannes aura lieu du 6 au 17 juillet et non en mai prochain, comme prévu, ont annoncé hier les organisateurs.
Elle a révolutionné la citadine dans les années 90, mais à l'approche de la trentaine, la Twingo n'est plus rentable. Renault décide de stopper la production. La fin d'une saga qu'on va vous expliquer dans un instant. Twingo, à tout de suite.
RTL Matin.
RTL 7h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Le patron de Renault l'a confirmé hier, la Twingo, c'est terminé.
Ouais, elle avait ses fans et ses détracteurs. Oui. Dans quelques années, qui sait, nous regarderons peut-être la Twingo comme nous admirons aujourd'hui la 4L ou la 2 chevaux. Elle aura en tout cas, écoutez, elle aura en tout cas indéniablement marqué sa génération. Christophe Bourreau.
On la surnomme en 93 à sa sortie la grenouille avec ses 2 crocs phares ronds. La Twingo a vraiment marqué les esprits et cette idée géniale, proposer un monospace de poche pour les villes aux couleurs acidulées, son côté fun attire.
Nuevo Renault Twingo. Inventate como vivirlo.
Twingo, à vous d'amender la vie qui va avec.
Vendue 55 000 francs, soit environ 8 500 euros, elle va bénéficier d'un beau coup de pub le 1er mars 93 dans la cour de l'Elysée face à François Mitterrand, Renaud gare deux Twingo et le président en pleine campagne pour les législatives va vite faire son choix.
Le chef de l'État, à qui ont été présentés deux modèles de la nouvelle petite Renault, la Twingo, avait le choix entre deux couleurs, la rouge et la bleue. Il a choisi la rouge.
Plus qu'un succès, c'est un carton pour la première version. 2,5 millions d'exemplaires, aujourd'hui après plusieurs générations. Et un modèle électrique, Renault estime qu'elle n'est plus rentable. Un vrai crève-cœur pour beaucoup, mais une aubaine pour les collectionneurs. Déjà en deux ans, la cote de la Mamie Twingo de 93 s'est envolée de 30%.
Christophe Bourroux. Il avait déjà du plomb dans l'aile. Le projet de rachat des chantiers de l'Atlantique par le groupe italien Fincantieri est cette fois définitivement abandonné. Raison invoquée, les incertitudes engendrées par la crise sanitaire. Décision annoncée d'un commun accord entre les ministres français et italiens de l'économie. La France reste donc pour l'instant l'actionnaire majoritaire des chantiers. Malgré le changement de président, les États-Unis ne comptent pas revenir pour l'instant dans l'accord nucléaire iranien. Pas tant que l'Iran ne respecte pas ses engagements, ce qui pourrait prendre un certain temps. Téhéran exige au contraire que Washington fasse le premier pas en levant les sanctions américaines.
Sport avec le handball et cette victoire arrachée de haute lutte hier par les Bleus.
Hein. Qualifié désormais pour les demi-finales du Mondial après avoir battu les Hongrois 35-32 après prolongation. La victoire est donc là et c'est l'essentiel, mais ce fut douloureux, Isabelle Langer.
Ah oui, que ce fut dur, laborieux, irrespirable, mais les Bleus ont tenu bon. Ils ont su rester calmes, lucides, que ce soit lors de leur début de match catastrophique ou en prolongation. Ils sont restés costauds et pour Valentin Porte, c'est précieux, comme il l'a confié à nos confrères de Beansport.
Peut-être c'est un peu notre passé, la compétition de l'an dernier qui ne s'est pas bien passée, les deux matchs de la Serbie où on passe un peu pour des guignols. Tout ça fait qu'on n'a plus envie de revivre ça et d'exploiter un maximum notre potentiel et technique, tactique et mental aussi. Donc plutôt une bonne nouvelle pour la suite parce que voilà, maintenant ça va se jouer sur le terrain, mais beaucoup, beaucoup mental. Donc c'est déjà une bonne chose si on a ça.
Leur objectif, ils ne s'en cachent pas, décrocher une médaille. Pour être certain d'en avoir une, ça passe déjà par une victoire contre la Suède demain. Seule ombre au tableau pour les Bleus, les blessures de deux pièces maîtresses, Timothée Nguessan et Luka Karabatic, dont le mondial est peut-être terminé.
Isabelle Langer.
On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 6, le 5, le 7, le 9, le 13 et le 8. La dernière minute, c'est le 5, Vincent Ferme. Dominique Cordier, très en forme en ce moment dans ses pronostics, puisqu'il vient de donner les deux derniers quintets dans le désordre. C'est ce qu'on appelle un bon tuyau.
Moi, je vote Dominique dans tous les cas.
Pour les tuyaux,
c'est Raphaël Niveau est reparti. C'est ce qu'on appelle un enchaînement qui fait un flop. Il est très exactement 7h12. La politique avec vous, Olivier Post. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Pourquoi l'Élysée et Matignon ne sont pas toujours sur la même ligne, Olivier? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il y a deux explications à ce que nous vivons depuis maintenant des jours et des jours. Cette impression que tout le monde au sommet de l'État ne pousse pas forcément dans le même sens. La première explication, la plus simple, est la situation impossible dans laquelle nous sommes. Il y a peu de chiffres encore sur lesquels le gouvernement peut fonder sa décision. En clair, nous ne pouvons pas encore dire que la circulation du virus s'envole complètement. Et puis, il n'y a aucune bonne solution, oui. Du confinement le week-end aux vacances prolongées jusqu'au confinement très serré, pour reprendre l'expression. Toutes ces solutions ont des inconvénients, elles nous minent le moral, isolent les jeunes, plombent l'économie. Voilà ce qui explique ce qui peut apparaître comme des tergiversations.
Alors, vous nous avez promis une deuxième explication.
Oui, et celle-là est plus intimement liée à la structure du pouvoir. Nous avons un président de la République et un premier ministre. À gros traits, Jean Castex est plus allant sur un reconfinement, quand Emmanuel Macron est très hésitant. C'est ce que racontent leurs proches conseillers. Jean Castex a dit à l'Assemblée avant-hier « Je prioriserai toujours la santé de nos concitoyens ». Ce n'est pas un désaccord politique, mais une divergence de vues et d'intérêts. Le président de la République et son Premier ministre n'ont en fait pas le même calendrier. Pour dire les choses sans détour, l'année prochaine, Emmanuel Macron aura rendez-vous avec les urnes. Jean Castex, lui, peut-être au tribunal.
Ah ben en effet, c'est assez brutal comme explication. Vous pouvez être un peu plus précis?
Oui, je vais reprendre en fait tous les enjeux de la crise sanitaire et d'un reconfinement. Il y a une dimension économique, une dimension sociale, il y a une question d'autorité aussi. Si la France déprime, que les entreprises s'écroulent, que plus personne ne respecte les consignes sanitaires, ce sera un enjeu très fort à l'automne pour le chef de l'État. Autant d'angles d'attaque pour ses opposants et qui alourdiront son bilan avant la présidentielle. L'autre dimension de la crise sanitaire et du reconfinement, c'est la santé. Limiter l'engorgement des hôpitaux, le nombre de morts, c'est sur ces résultats-là que les plaintes sont déposées contre les ministres et contre le premier d'entre eux. Cela pousse à la prudence. C'est pour ça que nous avons le sentiment de revivre exactement ce qui s'était passé il y a presque un an entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Est-ce que ça entame irrémédiablement la confiance entre un président et son Premier ministre ?
Oh non, il faut bien plus que ça. Le duo de la Ve République a produit toutes sortes de configurations politiques, de francs désaccords, de rivalités, d'ambitions contrariées ou de petites revanches mesquines. Il n'y a pas besoin d'une crise sanitaire pour ça. La seule règle, presque intangible, c'est qu'il y a toujours un moment où leur relation se grippe et ça se termine toujours mal entre nos deux têtes de l'exécutif.
Merci Olivier Bost. C'est Bruno Retailleau qui sera l'invité politique ce matin d'Alba Ventura à 7h40. Le patron du groupe Les Républicains au Sénat nous dira ce qu'il veut faire de la droite à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle et comment d'ailleurs il se prépare. Dans un instant, notre brigade de l'actualité fait parler les petits patrons en souffrance. Nicolas Burnand a pu se rendre dans un centre téléphonique d'écoute et d'assistance pour les PME en difficulté.
Yves Calvi, RTL Matin.
C'est une parole rare qu'RTL a choisi de vous faire entendre ce matin, celle de la détresse des petits patrons confrontés à la crise sanitaire. Il y a près de 4 millions de petites et moyennes entreprises dans notre pays et certaines sont aujourd'hui dans une situation financière très difficile, vous l'imaginez. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Un dispositif gratuit mis en place par l'association APESA offre un soutien psychologique à ces chefs d'entreprise en détresse. Un numéro vert a même été ouvert à la demande du gouvernement, accessible 7 jours sur 7.
Oui, ce matin-là, les appels aboutissent au cabinet de Céline Lucas, la psychologue de permanence installée en région parisienne. Elle effectue 2 sessions d'écoute par semaine.
Plateforme APESA, bonjour. Oui, dites-moi.
En ce moment, c'est difficile. C'est même, par rapport à ce que je fais, c'est impossible.
D'accord. Au bout du fil, un chef d'entreprise à bout, désespéré.
Vous n'êtes pas seul.
C'est ça.
Les aides promises par le gouvernement tardent à arriver.
Ils me font attendre, votre dossier va être traité. Et en ce moment, je ne dors pas. 2-3 heures par nuit, ou 4 heures, à n'importe quelle heure, enfin, je suis un peu perdu.
Le débit est rapide, saccadé. Le travail de la psychologue est d'abord de l'écouter, de le rassurer.
D'accord. Oui, je comprends. J'ai senti qu'il était dépassé et déboussolé. La personne craque. Même s'il n'y a pas tout de suite de solution trouvée, il se sent écouté. Les choses pour lui vont avancer.
Cet entrepreneur sera rappelé dans l'heure par un autre professionnel qui lui proposera 3 consultations gratuites.
Ok. Merci beaucoup, madame.
Je vous en prie, monsieur.
Il y a des restaurateurs, des hôteliers, des patrons de bars ou de discothèques. Un tiers de ces appels font l'objet d'une prise en charge psychologique.
Il faut qu'on arrive à déceler dans les paroles les messages un peu implicites, type « je ne sais même pas pourquoi je suis sur Terre aujourd'hui, je ne sers plus à rien ». Ce moment de se dire s'il n'avait pas appelé, peut-être que les choses se seraient passées différemment et dramatiquement dans l'impossibilité totale de se projeter.
À 3 reprises, cette prise en charge a abouti à une hospitalisation. Depuis le début de la crise sanitaire en avril dernier, plus de 1500 chefs d'entreprise ont appelé le numéro vert.
Et parmi ces entrepreneurs, Nicolas, en souffrance, qui ont composé ce numéro, il y a Christophe que vous avez rencontré.
Oui, ce patron de 41 ans ne compte plus les nuits blanches pour tenter de sauver son entreprise de travaux public dans l'Essonne. Il emploie une 30aine de salariés. Les chantiers sont annulés ou reportés. Il a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. Il y a quelques mois, cet ingénieur de formation a fini par craquer.
Je suis avec un client sur une négociation importante pour un chantier. Le rendez-vous se passe pas forcément bien. On n'est pas d'accord. Je pars sans la commande. Et dans la voiture, je m'effondre. En pleurs totales. À ce moment-là, pour moi, j'allais tout perdre. Et en fait, vous vous sentez seul.
Acculé par les difficultés financières, Christophe est obligé de contracter un prêt garanti par l'État. Ce papa de 2 enfants, perd goût à la vie, se sépare de sa femme. Il tombe dans une profonde dépression.
Vous avez votre esprit qui est incapable d'être logique parce que vous réussissez pas à faire 1+1, simplement. Des crises d'angoisse, des peurs, envie d'en finir, simplement. Prendre la voiture, rouler comme un couillon. J'ai pas le gaz ici, mais j'ai eu des idées sur le gaz, des trucs comme ça. Ouais.
Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui vous fait tenir ?
Simplement mes filles. Je n'ai pas le choix. Il fallait remonter la pente.
Isolé au pied du mur, l'entrepreneur s'accroche. Il s'en sort peu à peu grâce à l'aide d'un psychologue.
Ce qui m'a fait du bien, c'est de parler avec quelqu'un qui ne me connaissait pas. Avoir une écoute neutre, essayer de lister les choses qui devraient évoluer, ça permet d'agir. J'ai été clair avec mes salariés en leur disant, voilà, on vit pour maintenir le travail de tout le monde, pour nourrir ta femme, tes enfants. Soit on y passe, soit on fera autre chose.
Aujourd'hui, Christophe va un peu mieux, prend toujours des médicaments, mais le plus dur reste à venir. Ces prochains mois seront déterminants pour éviter la liquidation judiciaire.
Alors qu'une hausse des défaillances se profile, le dispositif APESA a vu ses prises en charge augmenter de 50% depuis le début de la crise sanitaire, Nicolas.
Oui, ce chiffre témoigne de la dureté de la crise et de l'importance de ce dispositif. Les chefs d'entreprise se retrouvent souvent seuls pour affronter les difficultés. Marc Bigné, le cofondateur d'APESA, est greffier au tribunal de commerce de Saintes en Charente-Maritime.
Ce qui caractérise aussi les entrepreneurs, c'est l'indépendance. On a l'habitude de ne compter que sur soi, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Ils prennent aussi souvent beaucoup plus d'engagement. C'est leur vie quotidienne, c'est leur existence, c'est une partie de leur identité. Finalement, avec peu de moyens, un peu d'explication, réussir à créer des réseaux de solidarité pour prendre en charge cette souffrance de la destruction lente de leur entreprise.
Depuis 2013, l'association a donc passé des conventions avec les principaux tribunaux de commerce de France. Ils forment des greffiers, des mandataires judiciaires, des juges pour repérer les signaux d'alerte de détresse chez les chefs d'entreprise afin de leur venir en aide.
Témoignage émouvant et impressionnant de ces petits patrons. Merci beaucoup Nicolas Burnand. Je rappelle le numéro de la cellule psychologique mise en place par le gouvernement. Il s'agit du 0805 65 50 50, 0805 65 50 50. Toutes les informations seront publiées d'ici quelques minutes sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux. Alors on vient de l'entendre, le moral des patrons est largement plombé par le contexte sanitaire et la crise économique. Après une année sous Covid, les perspectives ne sont pas réjouissantes et l'avenir est plutôt incertain. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
De notre brigade RTL. Combien d'entreprises sont menacées et quels secteurs sont touchés, Anaïs ?
Pour 15% des entreprises, c'est la catastrophe. Ce sont les cafés-restaurants, l'événementiel, la culture, énormément de petites et moyennes entreprises. Pour ces structures, l'activité économique est proche de zéro. En revanche, pour les autres, c'est-à-dire la majorité, l'activité est repartie plus ou moins fort. Certaines entreprises travaillent quasiment autant qu'avant crise, dans l'industrie, pharmacie, agroalimentaire, dans le domaine du numérique. Et puis beaucoup tournent à 80-85% d'activité, comme les entreprises du bâtiment par exemple.
Quelles sont les conséquences pour l'emploi ? Est-ce que les entreprises se séparent beaucoup de leurs salariés ?
Justement non, ça peut paraître contre-intuitif, mais il n'y a pas encore une vague de licenciements. Le chômage a augmenté certes, mais globalement ce sont surtout des CDD ou des contrats d'intérim non renouvelés, des non-embauches, de l'emploi freiné plus que des licenciements massifs. Parce qu'à l'heure actuelle, il existe encore des protections, comme le chômage partiel. 2,5 millions de salariés étaient encore couverts par le chômage partiel en décembre. Et puis l'autre bouclier, c'est l'endettement avec les prêts garantis par l'État. 40 000 nouvelles demandes de prêts ont été encore déposées ces deux derniers mois pour tenir. Mais attention, ça reste de l'argent emprunté, c'est du temps gagné, c'est de l'emploi sauvé. Mais pour combien de temps ? Il faut bien comprendre que l'économie est profondément engluée dans des sables mouvants.
Tout peut rapidement s'effondrer.
Oui, la Banque de France prévoit déjà qu'au moins une entreprise sur 20 ne pourra pas rembourser ses emprunts. Et puis, plus la crise dure, plus les risques de faillite augmentent, plus les annonces de plans sociaux vont se succéder. D'après une enquête de la CPME, 54% des chefs d'entreprise s'inquiètent pour la pérennité de leur entreprise.
Ce qui veut dire que les salariés risquent d'être la variable d'ajustement.
Oui, alors le pire n'est jamais certain, mais l'année 2021 risque d'être vraiment mortel pour l'emploi entre les salariés qui sont au chômage partiel, donc dans leur entreprise, mais qui touchent un peu moins de salaire, ceux qui vont perdre leur travail et ceux qui sont déjà au chômage. C'est toute la chaîne des salariés qui est en danger. Alors on le sait désormais, la réforme de l'assurance chômage est repoussée, les droits au chômage ne seront pas durcis au 1er avril. Mais pour sauver les entreprises comme les salariés, le défi social et économique du gouvernement est particulièrement complexe.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Nous ferons le point aussi à 8h20 avec le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. Dans un instant, point complet de notre météo avec Louis Baudin qui nous a d'ores et déjà rejoint. Bonjour cher Louis. Fake news avec nos grosses têtes et une nouvelle pépite d'Anthony Martin que je salue.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
RTL toujours avec vous. Matin, Yves Calvi.
Il est 7h26, c'est l'heure de notre pépite musicale, Anthony. Qu'avez-vous choisi aujourd'hui ?
Alors, dans la famille, rendons à César ce qui lui appartient.
Ah oui, on aime.
On aime bien. Intéressons-nous à cette chanson. Her hair is hollow gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She turns.
Bette Davis Eyes, tube planétaire de 1981, interprétée par la Californienne Kim Carnes avec cette voix passée au papier de verre. Elle n'a pas fait d'autres succès, elle s'est installée à Nashville à la fin des années 80 et elle s'est consacrée à la musique country. Ce tube a 40 ans, mais la chanson Bette Davis Eyes en a 6 de plus.
Ah bon ?
Oui, la version originale se trouve en effet dans un album qui est sorti en 1975, l'album New Arrangements de la chanteuse américaine Jackie DeShannon, une pionnière du style folk rock aux États-Unis. C'est elle qui a écrit ce titre, passé totalement inaperçu à l'époque. Le coup de génie, 6 ans plus tard, on le doit au claviériste de Kim Carnes qui a transformé les arrangements de façon spectaculaire pour en faire un morceau imparable, si fort, si ancré dans nos têtes qu'il rend l'original, vous allez l'entendre, presque méconnaissable, c'est un comble. Alors rendons justice et gloire à Jackie DeShannon. C'est notre pépite du jour, la version originale de la chanson Bette Davis Eyes.
C'est méconnaissable.
Totalement.
Et je n'avais pas été présenté à Jackie DeShannon en ce qui
voilà,
me concerne.
Titre voilà. original de Jackie DeShannon, enchantée. C'est elle qui l'a écrit. Elle l'a écrit après avoir été subjuguée par les yeux de l'actrice Bette Davis dans le film Une femme cherche son destin. Et au début des années 80, Bette Davis, la reine des studios Warner, de l'âge d'or hollywoodien, avait écrit à Kim Carnes et à Jackie DeShannon pour les remercier parce que le succès de la chanson l'avait rajeunie aux yeux de son petit-fils.
Merci beaucoup Anthony, on se retrouve demain matin.
À demain.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous dès 15h30 avec bien entendu dans leur poche quelques fake news.
Les bars, les restaurants, les musées, les théâtres, les cinémas étant fermés depuis fin octobre et les chiffres de la pandémie n'étant toujours pas suffisamment bons aux yeux du conseil scientifique, Emmanuel Macron aurait suggéré qu'on adopte une stratégie inverse. On ferme le conseil scientifique et on rouvre tout le reste.
Jean-Jacques Perroni.
Confirmation de l'Académie de médecine. Le professeur Delfrécy s'est tellement fait remonter les bretelles par l'Élysée que c'est bien ce qu'on peut voir sous ses yeux.
Titoff.
Le directeur des laboratoires Sanofi a tenu à signaler dans la matinale de RTL qu'il n'avait pris aucun retard sur le vaccin, c'est juste les autres qui sont allés trop vite.
On retrouve Laurent et ses petits camarades et ses grosses têtes dès 15h30 et jusqu'à 18h sur RTL. Louis Baudin.
Oui.
Comment se présente notre météo ?
Oh bah c'est très simple, hein. C'est gris, c'est pluvieux, c'est nuageux, ouais, c'est vite fait. La prévision est facile à faire aujourd'hui. Voilà. Il n'y a que dans l'extrême sud, entre les Pyrénées et la Méditerranée, où on aura une meilleure luminosité. Encore là aussi, on aura quelques nuages. Sous les nuages, de la pluie, de la neige en montagne, mais à partir de 2000 mètres, d'un très fort risque d'avalanche, des coulées de neige ou encore des risques d'inondation sur les Alpes, les Vosges, le Jura ou encore le Massif. Le vent sera également de la partie, jusqu'à 70-80 km/h, notamment près de l'Atlantique ou encore en Méditerranée. Les températures, nette hausse, vous avez vu sur votre scooter ce matin, ça remonte largement, on avait déjà 10 degrés, 10 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 14 à 18 dans le sud.
Merci beaucoup Louis RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 28 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et savez-vous combien vaut votre numéro de téléphone ?
Non.
20 dollars. C'est en tout cas à ce prix que se négocient en ce moment quelques 500 millions de numéros piratés à cause d'une faille de sécurité de Facebook. 500 millions de numéros, dont 20 millions de numéros français, Sophie Jousselin.
Oui, ils ont tous été volés en août 2019 avant que Facebook colmate cette brèche de sécurité par laquelle se sont introduits les pirates. Ces numéros, après être certainement passés de main en main sur le dark web à l'internet clandestin, ils sont maintenant en vente sur la messagerie instantanée russe Telegram. Le processus processus d'achat est entièrement automatique. Un numéro coûte 20 dollars à l'unité, mais les vendeurs ont le sens des affaires. C'est moins cher à partir de 10 000 numéros. Selon le magazine américain Motherboard, le prix tombe à 2 dollars. Alors à quoi peuvent servir ces numéros? Eh bien, par exemple, à organiser des campagnes de phishing par SMS. Et c'est comme ça que vous recevez des messages venant de la poste, de votre banque, de commerçants. Vous êtes alors incité à cliquer sur un lien et à donner par exemple votre numéro de carte bancaire et le code à 3 chiffres qui va avec, des données que le pirate utilisera par exemple pour faire des achats sur Internet.
Explication RTL signée Sophie Jousselin.
Les messages reçus. Hein. Un confinement très serré, cette hypothèse a été évoquée hier par le porte-parole du gouvernement.
Le couvre-feu à 18h ne freine pas suffisamment la propagation du virus, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Dans le même temps, les données qui remontent montrent que le variant anglais est déjà très présent en France. Il représenterait 10% des cas et on sait qu'il est plus contagieux que l'original. Voilà pourquoi, dans les différents scénarios envisagés, il y a ce reconfinement très serré que le professeur Gilles Pialou appelle de ses voeux. Il est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. À Paris.
Je pense qu'on est dépassé par cette pandémie. On n'a pas vu arriver ces variants ultra contagieux. Il y en a 2-3 avec une loi de Darwin qui fait qu'ils vont être majoritaires. Donc ça va être eux qui ont imposé leur loi. Et puis je pense que franchement, contrairement à ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, même s'il y a des effets qu'il faut discuter, il y a un vrai problème avec la circulation du virus dans les lycées et les collèges et probablement dans les écoles.
Gilles Pialou dans RTL Soir avec Thomas Soto. Emmanuel Macron ne devrait pas s'exprimer avant ce week-end ou le début de la semaine prochaine. Mais le président doit aussi prendre en compte le poids économique d'un confinement et le poids psychologique de plus en plus lourd. Fabien Quedeville est médecin dans l'Essonne. C'est lui qui a lancé le hashtag « Je ne me reconfinerai pas ». Il lance un appel au chef de l'État.
Ça ne veut pas dire un appel à la désobéissance civile, c'est pas le but. C'est vraiment un appel à la réflexion. Plutôt que de confiner, on peut trouver peut-être d'autres solutions. Et puis surtout, une alerte sur l'état psychique de la population qui est extrêmement dégradée. Les troubles anxio-dépressifs hein, chez des gens qui habituellement vont bien. Et je crois que c'est important qu'Emmanuel Macron, et moi je l'appelle solennellement à prendre une décision courageuse de ne pas reconfiner.
Ce médecin au micro RTL de Valentin Boissé. Les restrictions de plus en plus difficiles à supporter. Un restaurateur niçois a été placé en garde à vue hier soir après avoir accueilli une centaine de clients à l'heure du déjeuner. Ce qui a du reste attiré l'attention sur son cuisinier sans papier. La préfecture promet que toutes les personnes identifiables seront verbalisées.
Il n'y aura pas d'Airbus de la mer.
Le projet de rachat des chantiers de l'Atlantique par l'italien Fincantieri est finalement abandonné d'un commun accord. La pandémie rend l'avenir trop incertain. Pour Nathalie Durand-Primborn, la déléguée syndicale Force Ouvrière, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Pour nous, c'était une erreur. Nous, très clairement, ce que nous attendons, c'est que l'État reste actionnaire majoritaire parce qu'il a ce rapport de force avec les banques qui nous permet d'obtenir les montages financiers, les garanties bancaires pour obtenir des commandes. Surtout, il va y avoir le successeur du porte-avions Charles de Gaulle à construire. Aujourd'hui en France, nous sommes le seul chantier en capacité de le construire.
Un propos recueilli par Nicolas Burnand. Et puis Plunge fait les frais de la crise sanitaire. Une 60aine de restaurants sont menacés de fermeture. 1300 postes pourraient être concernés par ce projet de redimensionnement. L'UFC Que Choisir s'attaque aux sociétés de recouvrement. Elles sont à la manœuvre ces derniers mois car les banques sont accaparées par le plan de relance. Elles se débarrassent donc des crédits impayés auprès de ces sociétés qui font des bénéfices mirobolants avec des méthodes proches du harcèlement. C'est ce qu'explique Mathieu Robin du UFC Que Choisir.
Ce sont des consommateurs qui sont appelés quasi quotidiennement. Une dame qui nous dit « Je suis harcelée par téléphone, on m'a dit que j'étais malhonnête, que je devais avoir honte à mon âge et qu'elle allait prévenir tous mes voisins. » Donc tout un tas de situations de ce type qui sont tout à fait délétères. Et donc ça, c'est le vrai sujet d'inquiétude qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est qu'on a une déferlante de litiges en la matière avec des pratiques qui sont tout à fait inacceptables.
Un propos recueilli par Armel Lévy. L'info à ne pas rater si vous roulez à moto ou à scooter. À partir de lundi, il sera interdit de circuler entre les files de voitures. C'était toléré depuis quelques années dans certains départements, notamment en Île-de-France, à titre expérimental. Mais le taux d'accident est trop important. Si vous bravez l'interdit, il vous en coûtera 135 euros d'amende.
7h36, le Vendée Globe tient son vainqueur et c'est Yannick Bestaven.
Il a franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne il y a environ 3 heures, après Charlie Dalin arrivé en tête hier soir et après Louis Burton deuxième. Mais c'est pourtant lui qui l'emporte hein, grâce au jeu des bonifications après le sauvetage de Kevin Escoffier. Et ne lui dites pas qu'il n'a pas vraiment gagné.
Je ne gagne pas en arrivant troisième. Je gagne en temps compensé parce que la nuit où Kevin s'est retrouvé dans son radeau de survie, on m'a demandé de faire demi-tour. Je suis parti au pré face au vent dans 6 mètres de creux avec Jean, Boris Et Seb, on a passé toute la nuit sur le pont, et pas dans le bateau à se reposer, sur le pont à scruter l'océan pour trouver un copain, pendant que les autres ils continuaient leur course. Donc oui, je suis troisième à couper la ligne d'arrivée. Mais le vrai résultat, c'est la règle du jeu. C'était, on a tous signé en bas de la page pour que ça se passe comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que moi dans 4 ans, si je refais le Vendée, que je me retrouve dans mon radeau, je serais content que les copains viennent me chercher parce qu'il y a du temps compensé en plus. Quoi.
Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe au micro RTL de Patrice Gabart. Et puis au mondial de handball en Égypte, les Français sont qualifiés pour les demi-finales. Ils ont battu la Hongrie 35-32. Dans la douleur, il a fallu des prolongations. Ils affronteront la Suède demain pour une place en finale.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, je vous présenterai Catherine Corless. C'est la bonne fée des enfants oubliés d'Irlande.
Merci Isabelle Choquet. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
On connaît tous la guerre des étoiles, mais ce matin c'est plutôt la guerre des seringues.
Oui, l'Europe se déchire avec un laboratoire, avec Londres. Et derrière cette guerre qui monte, une question. Est-ce que Bruxelles a été à la hauteur sur cette question capitale qu'est l'approvisionnement du continent en vaccin?
Je sais pas pourquoi, je vous sens sceptique, mais enfin bon, vous allez nous expliquer tout ça dans un petit moment. A tout de suite.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, l'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
La guerre des vaccins est déclarée en Europe, François?
Oui, c'est non pas la guerre de Troie, mais la guerre des Troies entre la Commission européenne qui supervise l'approvisionnement en vaccins du continent, AstraZeneca, c'est une compagnie pharmaceutique anglo-suédoise, figurez-vous, qui fabrique l'un des rares vaccins disponibles contre le Covid, et puis le Royaume-Uni. Tout a commencé avec un avertissement de l'industriel il y a quelques jours. Les livraisons à l'Europe seront amputées des deux tiers au premier trimestre à cause de problèmes de production. Alors que dans le même temps, le Royaume-Uni, lui, est massivement approvisionné, ce qui lui permet d'afficher l'un des meilleurs taux de vaccination du monde. Plus de 11 personnes vaccinées sur 100 habitants, pour mémoire, en France, c'est 1,7. En avril, tous les Britanniques de plus de 50 ans devraient être protégés. Du coup, la Commission exige qu'AstraZeneca utilise ses usines britanniques pour alimenter l'Europe à la grande fureur de Londres.
Comment s'explique un pareil conflit? Ça paraît absolument invraisemblable.
Incroyable. La toile de fond, c'est la pénurie de produits par rapport à la demande, bien sûr, et puis la relative lenteur de l'Europe dans la prise de commande. L'Europe a été plus tardive de 3 mois que le Royaume-Uni, que le gouvernement anglais. Là encore, complexité, lourdeur de l'appareil bruxellois qui est en cause par rapport à la réactivité britannique. Toute cette affaire est une campagne de pub formidable pour le Brexit.
Pourquoi a-t-on confié à Bruxelles l'approvisionnement?
Vous savez, dans un marché unique, c'était indispensable parce que sinon, les petits pays auraient été écrasés par les gros et puis, les citoyens, nous, on aurait été tentés d'aller se faire vacciner dans les pays les mieux approvisionnés. Le bazar, l'idée était donc bonne, mais c'est l'exécution qui a été problématique. Et du coup, il n'y a plus de vaccins en Espagne. L'Allemagne fulmine aussi et demande que Bruxelles interdise les exportations de vaccins fabriqués en Europe. En fait, Berlin est d'autant plus furieux que l'un des vaccins opérationnels, celui de Pfizer, a été inventé par une start-up allemande et que le pays possède plusieurs unités de fabrication sur son sol qui alimentent notamment les Britanniques.
Bon, ça veut dire que l'Europe n'a pas été à la hauteur?
Écoutez, dans le retard des pays européens, il y a apparemment deux causes qui se cumulent. Le fait de ne pas avoir anticipé les questions essentiel de logistique. Oui. Ça, c'est plutôt du ressort des gouvernements nationaux. Et puis, la lenteur du processus de décision européen. Une inertie qui avait été pointée, rappelez-vous, dès avril par le patron de Sanofi. Il avait lancé l'alerte. Puis par le patron de Moderna, fabricant américain d'un autre vaccin. Aujourd'hui, par le patron d'AstraZeneca. Et puis encore, par le patron français d'une start-up française elle-même, dont le vaccin potentiel sera livré au Royaume-Uni en priorité. Parce que les offres de services que la start-up a faites à la France et à l'Europe ont été tout bonnement ignorées. Tous les quatre disent la même chose. L'Amérique de Trump et les Britanniques ont frappé fort tout de suite, en mettant beaucoup d'argent sur la table et beaucoup de volonté. Le problème, c'est que dans les années qui viennent, ces questions d'approvisionnement stratégique et de pénurie vont se multiplier, parce que c'est aujourd'hui la pharmacie, demain ce seront les composants électroniques, les matières premières. Nous sommes entrés dans l'ère de la confrontation des grandes puissances et l'Europe ne l'a pas encore réalisé.
Merci beaucoup François Langlais. Il est 7h41, nous retrouvons Alba Ventura. Bonjour Alba.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Je lui demanderai quelle est sa position sur un éventuel reconfinement et puis nous parlerons bien sûr de la droite à la recherche de son candidat pour 2022.
Bon, je suis sûr qu'il a une petite idée. On se retrouve dans un instant avec Bruno Retailleau.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Alba Ventura.
Soyez le bienvenu sur RTL. Bruno Retailleau, est-ce qu'il faut reconfiner le pays de manière stricte et courte dans la durée ?
Moi, je comprends que le président de la République ait des hésitations, parce qu'on voit bien que le consentement, l'acceptation d'un éventuel reconfinement, elle est plus du tout évidente. Mmh. Plus du tout évidente. Peut-être faudra-t-il reconfiner. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que le confinement, oui, mais pour moi, c'est deux conditions. Il faut d'abord qu'il soit humain, qu'il n'oublie pas cette exigence d'humanité. Pas question de laisser dans les hôpitaux mourir les gens seuls. Pas question d'enfermer dans leur solitude nos anciens dans les EHPAD, d'autant plus que beaucoup vont avoir reçu la première injection de vaccin. Et la deuxième condition, non à l'absurdistan.
C'est-à-dire ?
Il faut que ce soit un confinement, si j'ose dire, sur mesure, et qui tienne compte des leçons des derniers déconfinements et reconfinements. Par exemple, l'Institut Pasteur, il y a une étude qui a été publiée juste avant Noël, le 17 décembre. Cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que, en réalité, les commerces ne sont pas les foyers de contamination. Donc, si on doit reconfiner, soyons intelligents, soyons humains.
Pour revenir à ce que vous disiez, qu'est-ce qui prime aujourd'hui ? C'est le sanitaire, c'est l'économique ou c'est la vie des gens ? Est-ce qu'il faut préserver l'économie ou est-ce qu'il faut craindre des violences comme on le voit par exemple aux Pays-Bas, au Liban ?
C'est une vue de l'esprit, je crois, de séparer la vie économique et sociale et le sanitaire. Les derniers confinements nous ont appris que 1 million de Français avaient basculé dans la pauvreté. Ça, c'est de la souffrance. Ces confinements nous ont appris qu'il y avait une consommation de psychotropes, des suicides, des violences conjugales. 40% de plus pour le premier confinement. J'ai entendu dire un chiffre, je ne l'ai pas, si j'ose dire, documenté, 60% pour le reste en matière de violences conjugales. Donc, ça fait des morts aussi. Donc, vous voyez bien que, et on l'a vu d'ailleurs, les pays qui s'en tirent le mieux en Asie, ce sont des pays qui s'en tirent le mieux économiquement, mais aussi d'un point de vue sanitaire, qui ont eu le moins de morts. Donc,
mais ils confinent assez
pilotage.
Strictement dès qu'il y a une flambée épidémique.
Non, ce que je veux dire, c'est que, et c'est là que j'interroge, je pense qu'un confinement...
Ils sont très disciplinés par ailleurs.
Exactement. La culture collective compte, vous avez raison. Ce que je veux dire quand même, c'est que, vous savez, dans ces pays, le taux de mortalité par million n'a jamais été supérieur. J'excepte la Chine parce qu'on ne connaît pas les vrais chiffres. Mais à 20 morts par million d'habitants. Et nous, c'est 20, 30, 40 fois plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et un confinement, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ces pays asiatiques, ils nous disent quelque chose dans leur succès. C'est qu'on peut vaincre une épidémie sans vaccin, sans traitement. Ils n'avaient pas plus de vaccins que nous, pas plus de traitements que nous.
Non, mais nous ne sommes pas des Asiatiques.
Non, attendez. Ils ont simplement... Nous sommes des êtres humains, comme eux. Ils sont des grandes démocraties. Nous sommes aussi des démocraties. Mais eux, ils ont compris qu'il y avait deux pilotages possibles. Nous, on a choisi le pilotage par rapport au lit de réanimation. Et on pilote comme ça. Et malheureusement, on n'a pas ajouté d'ailleurs de lit de réanimation. On en a toujours autour de 5000. Et eux, ils ont une autre stratégie. Ils ont cassé les reins de l'épidémie. Comment ? En dépistant massivement. Alors nous, maintenant, au bout de 8 mois, on y arrive. Mmh. Ensuite, en traçant, et nous, on n'y arrive toujours pas. Il faut tracer de façon rétrospective pour trouver les super contaminateurs qui contaminent 80-90%. Et il faut aussi isoler. Et on n'isole pas. Le confinement, c'est quoi ? C'est isoler tout le monde.
Alors,
isoler les cas positifs, c'est isoler uniquement ceux qui peuvent propager. Il aurait fallu être plus ferme, y compris avec des amendes, comme on fait en Grande-Bretagne.
Vous avez interrogé de votre côté des médecins, vous parlez avec des élus. Vous allez être consulté par le Premier ministre Jean Castex. C'est ça que vous allez lui dire ?
Bien sûr, c'est ce que je vais lui dire. Évidemment. Ce que je vais lui dire, c'est pourquoi est-ce que on n'a pas de lit de réanimation supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on s'est mal tracé ? Pourquoi est-ce que dans mon département, je vois dans le centre de vaccination qui est tout près de chez moi, eh bien pendant 4 jours, on a déprogrammé les vaccinations qui étaient programmées pour les personnes âgées parce qu'il n'y avait plus assez de doses. Donc pourquoi est-ce qu'en France, on séquence pour traquer les variants du virus ? Il faut les traquer. Eh bien, on a 30 fois moins de moyens de séquençage que dans un petit pays comme le Danemark. Pourquoi tout ça ?
Bruno Retailleau, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit de Xavier Bertrand qui l'a dit dans ce studio ? Il faut travailler ensemble, gouvernement et élu. Est-ce que vous tendez la main au gouvernement ?
Mais je ne fais que ça. Je suis président du principal groupe d'opposition au Sénat. Que croyez-vous qu'on a fait ?
Non, mais
on a
voté. Vous avez dit que la campagne de vaccination était un fiasco. C'est pas une manière de tendre la main.
Mais parce qu'on a toujours donné les moyens. Et cette nuit, hier soir, on a voté en l'amendant. l'état d'urgence. On a voté les moyens au gouvernement pour aider nos entreprises. On les a tous votés en réalité. Donc on tend la main. Maintenant, moi j'ai un devoir d'unité sans doute, mais j'ai aussi un devoir de vérité par rapport aux Français. Quand le gouvernement fait bien, je le reconnais. Quand le gouvernement se trompe, je dois le dire pour le bien des Français, pour le bien de la France. C'est mon rôle. Et je vais vous dire, je ne pense pas à moi, je pense d'abord aux Français et à ce qui est bon pour eux.
Bruno Retailleau, c'est quoi être de droite aujourd'hui ?
C'est aimer la France.
Concrètement, enfin, j'aimerais bien des mesures.
Bah, c'est
plutôt.
Être patriote, c'est quoi être de droite ?
Aimer la France, je crois que tout le monde peut le dire.
Être de droite, c'est par exemple être pour la restauration de l'autorité. Voilà. L'autorité de l'État, c'est important. Moi, j'ai connu Notre-Dame-des-Landes et on a donné l'ultra-violence à payer et ceux qui étaient dans la légalité ont été les perdants. Il faut rétablir l'ordre en France. Je suis pour la liberté. Je pense qu'en France, on asphyxie les Français.
Mais parce que le président Macron ne veut pas rétablir l'ordre, à votre avis, ou d'autres potentiels candidats ne veulent pas moins d'insécurité, repousser l'islamisme radical.
Mais il aura fallu regarder pour l'islamisme. C'est un danger que je dénonce depuis des années. Il aura fallu attendre la dernière année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors que, souvenez-vous, les attentats 2015, vous vous rendez compte, il aura fallu attendre la dernière année pour commencer à avoir un texte qui sera un texte très très faible. Donc je pense que oui, il aura un mauvais résultat sur le plan de la sécurité. Il aura aussi un mauvais résultat sur le plan des dépenses. Notre problème en France, on dit la dette, très bien, c'est un problème. Mais il y a un problème plus important, c'est qu'on est champion du monde de la dépense publique. Malgré tout, on est champion du monde, mais on a des résultats médiocres. On a des infirmières qui sont sous-payées. On a des enseignants qui sont sous-payés. Vous regardez les résultats de l'école, la science, c'est important.
Donc
les
vous vaccins, applaudissez des deux mains ceux qui, dans votre parti, appellent de leur vœu le revenu universel ou une augmentation des salaires nets de 5%.
Non, j'ai appelé ça de la poudre de perlimpinpin. Je pense que nous, on doit être le parti et la droite de la valorisation du travail. Le drame français, je vais vous dire, c'est que le travail ne paie pas. Vous avez le même coût du travail. Par exemple, c'est normal, on veut un modèle social exigeant. Par rapport à l'Allemagne, on a le même coût du travail, pratiquement. Mais ce qui reste dans la poche des salariés, c'est pas la même. C'est une injustice énorme parce que on retire de la fiche de paye et de la fiche d'impôt des Français énormément de charges pour nourrir un État bureaucratique qui ne nous protège plus. Et on en a eu la démonstration pendant toute cette pandémie. Voilà. Et donc, je crois que être de droite, c'est l'ordre, c'est la liberté.
Ça finance aussi notre système de santé que tout le monde loue.
Mais tout le monde loue. Tout le monde loue. Nous étions, il y a 10 ans, les premiers producteurs de médicaments en Europe. Nous sommes 4e. Nous étions, il y a 20 ans, au même niveau de vie que l'Allemagne. Il y a désormais 5000 euros. La réalité, c'est que la France est en train de dégringoler. Le bilan de M. Macron, c'est cette dégringolade. Donc, il faut que je... Voilà, la démocratie, c'est que l'opposition s'exprime aussi. C'est important. On ne peut pas toujours dire que tout va bien quand beaucoup de choses vont mal. Et les Français le savent, et les Français le sentent.
Où en êtes-vous de votre candidature à la présidentielle ?
Écoutez, moi je porte des convictions, je veux me battre et j'ai engagé un combat aussi pour qu'il y ait à droite, puisqu'il n'y a pas de candidat naturel pour le moment, un choix démocratique.
Alors il n'y a pas de candidat naturel, mais il y a des candidats qui se dégagent. Si on regarde les sondages, c'est bien qu'à 15 mois de la présidentielle, il faut être hyper prudent, mais Xavier Bertrand est autour de 16%, Valérie Pécresse est autour de 14%. Si l'un des deux se dégage après les régionales de juin, vous pourriez soutenir l'un des deux ?
Mais un candidat
et abandonner éventuellement vos ambitions ?
Je l'ai toujours dit, un candidat naturel, c'est un candidat qui, à travers plusieurs sondages, nous assurerait d'être au second tour. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Moi, j'ai un objectif, en tout cas, c'est de ne pas tomber dans ce face-à-face qui serait un bégaiement de l'histoire du deuxième tour, du second tour de 2017, où on verrait M. Macron et Mme Le Pen. Vous savez que 80% des Français n'en veulent pas. Moi, je pense que il y a une autre voie possible. Et vous savez, jamais la France, c'est mesuré dans tous les sondages, jamais la France n'a été autant à droite. Moi, je veux faire des propositions pour que le travail paie plus, pour qu'on puisse rétablir l'ordre. J'ai des propositions à faire aussi contre le désordre migratoire.
Et j'ai vu que ces propositions, vous allez les faire sur votre application smartphone 2022.
2022, hein, c'est
au moins,
nouveau.
C'est clair.
Je pense qu'une communauté... Il faut aller vers les gens, là où les gens se trouvent. 80% des Français ont un smartphone et je pense que les partis politiques sont faibles parce qu'ils ne correspondent plus à un engagement civique moderne. Ils sont importants, mais je pense que la communauté numérique, le fait que les gens puissent participer, c'est fondamental et notamment pour les jeunes.
Vous êtes ancien président de la région des Pays de la Loire et finalement les chantiers de l'Atlantique vont rester sous pavillon français. Le gouvernement n'a pas voulu vendre à l'italien Fincantieri. Il a eu raison ou pas ?
Non, le gouvernement a voulu vendre. Attendez, j'étais président de région, ça fait 3 ans que c'est moi qui... Attendez, je me suis opposé, 4 ans, hein, voilà. Je me suis opposé à la vente par Fincantieri qui avait des accords avec les Chinois qui auraient capté nos technologies en Chine. Voilà. Et à l'époque, j'avais en face de moi Monsieur Macron, Monsieur Le Maire qui trouvaient très bien qu'on puisse vendre... à Fincantieri, avec ses accords chinois.
Donc, Bruno Retailleau, on l'a vu avec Carrefour et le Canadien Couche-Tard, maintenant avec l'Italien Fincantieri. Est-ce que cela peut compromettre nos acquisitions? C'est-à-dire, non, on ne vous vend pas, mais nous, en revanche, on va continuer d'acheter chez vous. Ça peut compromettre nos acquisitions françaises?
Moi, je suis pour la souveraineté, mais je ne suis pas pour les coups de com'. Ce que je veux dire sur la sécurité alimentaire, que vous savez qu'il y a un CETA. Le CETA, voilà, c'est amener de la viande qui est faite dans des fermes industrielles canadiennes chez nous, alors que nous, on a la meilleure viande au monde. Ben moi, je suis contre le CETA. Les députés En Marche ont voté. Depuis 18 mois, le gouvernement refuse d'amener le CETA au Sénat parce qu'on votera contre. C'est ça aussi, c'est essayer d'être cohérent, la politique. Et j'ai des propositions à faire sur les médicaments, sur notamment la souveraineté.
Mais on en reparlera.
Bien sûr.
Je voulais vous dire merci parce que vous avez peu dormi.
Oui.
Parce que vous avez regardé le Vendée Globe.
Ah, exactement.
Et la victoire de Yannick Bestaven au Sable d'Olonne.
C'est extraordinaire. C'est pas Louis Bonin qui est à côté de
vous
moi dans ce studio.
Vous auriez préféré être là-bas qu'ici, j'imagine.
Mais oui, non, mais Yannick, je vais vous dire, je suis très heureux pour deux raisons. D'abord, Yannick s'est dérouté pour aller sauver Kevin Escoffier et que le vainqueur soit aussi celui qui s'est dérouté. Il s'est dérouté parce que la direction de course le lui avait demandé. Attention, hein, bon, c'est pas les autres l'auraient fait tout autant, mais les gens de mer, ce sont des grands champions, des athlètes qui courent pour eux, bien sûr, pour gagner, mais qui ont toujours cette solidarité des gens de mer. C'est une belle tradition. Et le Vendée Globe a écrit les pages humaines. C'est une aventure exceptionnelle parmi les éléments déchaînés, les océans les plus dangereux au monde. Et ça grandit l'homme. Et ça, franchement, ou la femme, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette édition. Et c'est très bien. Et ça, c'est rassurant. Et ils nous ont déconfinés. Ça a été le plus grand déconfinement pour les Français. Et je trouve que vous avez raison d'en parler. Et j'ajoute enfin que Yannick Bestaven est représentant aussi d'un groupe industriel de l'Ouest. Et donc c'est très bien, Maître Coq et LDC, c'est super.
Merci pour la pub, Bruno Retailleau.
Et l'ensemble de l'entretien de Bruno Retailleau et d'Alba Ventura est à retrouver sur le site RTL.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec l'info.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h56, Cyprien, vous surfez ce matin avec la sémantique du reconfinement. 50 nuances.
Ah bah oui, ça y est, parce que ça recommence.
La France a peur.
Tu m'étonnes qu'elle a peur, la France. Parce que la France, eh ben, elle a écouté le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, quand il a dit hier.
Et nous avons travaillé sur différents scénarios qui peuvent être envisagés, qui vont d'un maintien du cadre actuel jusqu'à un confinement très serré.
Un confinement très serré. Mmh. Et la question... Où vont-ils chercher tout ça? D'où vient cette inventivité et cette créativité sémantique? Confinement très serré. Mais parce que bon, on connaissait...
Un café noir bien serré.
Oui, le café bien serré, à la rigueur. Collé serré aussi, on connaît. Mais alors, le confinement serré, là, on sèche. Pourtant, en un an, on en a appris à en connaître, hein, des confinements. On a bien connu le...
Un reconfinement assez dur.
Oui, le confinement dur, hein, un ami. Il y a son jumeau aussi.
Un confinement très strict.
Le strict, hein, qui fait comme ça quand on sort son attestation.
Alors, Ausweis, papier, autant. J'ai dit Ausweis.
Non, il rigole pas, le confinement strict. Sinon, on connaît aussi...
C'est un reconfinement allégé.
Évidemment, le allégé, puisque...
Sans matière grasse qui permet de rester mince sans se priver.
Le allégé qui ressemble à s'y méprendre.
Avec ce confinement light.
Et oui, le light, car le confinement...
existe aussi sans sucre.
Bah voyons. Vous voyez qu'on en connaît des confinements, sans oublier ceux-là, bien sûr.
Un reconfinement beaucoup plus souple.
Un reconfinement assez dur.
Reconfinement général.
Le confinement prolongé.
Le reconfinement localisé, départementalisé, régionalisé.
Confinement partiel.
Confinement
grand ou moyen.
Bon, ben c'est bon, je crois qu'on a fait le tour, là, non ?
Oui. C'est pas un confinement à la petite semaine pour lui,
je crois. Ah oui, on a failli oublier celui à la petite semaine, dites donc. Bref, le confinement, c'est un peu comme dans la chanson de Pierre Perret, en fait.
Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le Montpellier, tout, 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 je vous dirai tout sur le
confinement. Il y en a plein et ils sont tous différents, mais je suis pas certain d'être pressé de découvrir le confinement très serré, moi. En attendant, si on en est là, ça prouve quand même une chose, et c'est Gabriel Attal qui le reconnaît.
Le couvre-feu à 18h a une efficacité aujourd'hui relative. Il ne freine pas suffisamment la circulation du virus.
Eh oui, comme quoi, hein.
L'intérêt du couvre-feu à 18h, c'est de contrer l'effet apéro.
Mais bien sûr, l'apéro qui n'avait donc rien à voir là-dedans. L'occasion donc de le réhabiliter comme il se doit. Alors reconfiner peut-être, mais santé quand même.
Et on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto dans RTL Soir.
À ce soir.
Merci Cyprien. Notre météo, Louis Baudin.
Oui, très pluvieuse. Beaucoup de pluie en ce moment du Val-de-Loire jusqu'à l'Île-de-France, toutes les régions de l'Est. Et ça va être comme ça toute la journée. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne verra pas le soleil. Il pleuvra sur toutes les régions à un moment ou un autre. Beaucoup de pluie dans l'Est, beaucoup de neige au-delà de 2000 mètres, dont un fort risque d'avalanche dans les Alpes, le Jura, les Vosges, risque de débordement de rivières. Et puis dans l'extrême sud, quand même, entre les Pyrénées et la Méditerranée, on aura un tout petit peu de lumière. Et encore, il y aura là aussi des nuages. Le vent sera de la partie, 60-70 km/h, et les températures en nette hausse. Peu ou pas de gelée ce matin. Il en reste un petit peu là entre le Var et la Corse. Mais cet après-midi, 10 à 14 degrés dans la moitié nord. C'est une hausse spectaculaire.
Ah oui.
14 à 18 degrés dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est très exactement 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, une soirée qui fait désordre dans les rangs de la police.
Un bal non masqué au commissariat, des dizaines de policiers collés serrés et bien après le couvre-feu, une enquête administrative est ouverte. 9 mineurs interpellés dans l'affaire Youri à Paris, ils sont en garde à vue. Et puis Yannick Bestaven, nouveau héros du Vendée Globe après une nuit complètement folle.
RTL Matin.
Vous vous souvenez peut-être de cette petite phrase devenue culte.
On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé.
Formule prononcée mâchoire serrée en octobre dernier par le préfet de la région Centre-Val-de-Loire. Mais visiblement, le message n'est pas arrivé aux oreilles des policiers d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, trahis par une vidéo. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Le week-end dernier, dans leur commissariat, ils étaient une trentaine à fêter le départ d'une collègue jusqu'au petit matin et au mépris des règles sanitaires.
Oui, du coca, des bières, des chips et une macarena endiablée. Des images il y a un an n'aurait choqué que les mélomanes aguerris, sauf que nous sommes le 22 janvier 2021, que la fête a duré jusque tard dans la nuit, qu'aucune règle de distanciation n'a été respectée. Pas de masque dans ce collet serré filmé par un participant, malgré les affiches placardées au mur du commissariat. Ce pot de départ d'une lieutenante a largement dépassé l'heure du couvre-feu. Au moins trois infractions, si on rajoute l'interdiction de se réunir à plus de six personnes dans cette petite salle de repos. La préfecture de police a réagi hier suite à la diffusion de ces images par nos confrères de Loopsider. Une enquête administrative est en cours. Des sanctions seront prises contre les policiers. Une affaire qui rappelle cette fête géante organisée par les élèves de l'école de police de Nîmes en octobre dernier et pour lequel Gérald Darmanin avait demandé l'exclusion des élèves impliqués.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Guillaume Chiez. On l'a appris il y a quelques minutes par le parquet de Paris. 9 mineurs, parmi lesquels des lycéens de Vanves, ont été interpellés ce matin dans l'enquête sur l'agression de Youri, cet adolescent de 15 ans tabassé en plein Paris dans le quartier de Beaugrenelle. Ils sont en garde à vue, notamment pour tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et vol avec violence. Va-t-on vers un reconfinement très serré, pour reprendre l'expression du porte-parole du gouvernement? On va voir ça dans un instant. Mais avant cela, faisons un détour par un pays qui est en train progressivement de retrouver le sourire. Il s'agit d'Israël, puisque la campagne de vaccination qui a commencé là-bas très tôt, dès le 20 décembre, cette campagne est en train, si l'on en croit les tout derniers chiffres, de porter ses fruits. Stéphane Amar.
Dans ce centre de vaccination de la banlieue de Tel Aviv, Moshe vient recevoir la deuxième injection du vaccin contre le coronavirus. Le bout du tunnel, selon lui.
Je ne travaillais plus parce que j'ai des antécédents médicaux et je ne voulais pas prendre le risque d'attraper le virus. Maintenant, avec la deuxième dose, je vais pouvoir retourner travailler en étant sûr qu'il ne m'arrivera rien.
Les premières études sur l'efficacité du vaccin incitent à l'optimisme. En Israël, où la grande majorité des seniors ont été vaccinés, les hospitalisations des plus de 60 ans ont chuté de 60%. Et les personnes ayant reçu les deux injections semblent immunisées à plus de 99% selon le professeur Arnon Afek de l'hôpital Sheba près de Tel Aviv.
C'est très impressionnant, cela nous encourage énormément. Cela nous conforte dans l'idée que nous réussirons à faire chuter le niveau des contaminations grâce au vaccin.
Alors que la campagne de vaccination se poursuit pour toute la population, même les adolescents, l'épidémie continue de faire des ravages en Israël. Le variant anglais serait à l'origine de la plupart des nouvelles contaminations.
Reportage de Stéphane Amar en Israël pour RTL.
Des variants qui inquiètent et qui pourraient peut-être conduire chez nous à un reconfinement total.
Ou très serré, comme le dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Les choses donc se précisent.
Oui, ce matin, le président va être informé des progrès des traitements au cours d'une réunion avec des spécialistes. Le Premier ministre, lui, reçoit les parlementaires et les élus locaux cet après-midi, puis demain les partenaires sociaux. Et ce week-end, Emmanuel Macron aura en main les données consolidées sur les effets du couvre-feu à 18h et sur la propagation des nouveaux variants du virus. C'est sur cette base qu'il prendra ses décisions, mais les premiers chiffres ne sont pas encourageants et le statu quo est d'ores et déjà écarté. Le président l'a dit hier en Conseil des ministres, il n'y a pas de stratégie évidente pour répondre à cette situation dégradée. Le Conseil de défense d'hier n'a d'ailleurs pas permis de trancher. Il devrait y en avoir un autre ce week-end décisif, celui-là. Alors, confinement le week-end, des restrictions de circulation, confinement allégé comme en novembre ou confinement serré, très serré comme en mars, le chef de l'État prendra-t-il la parole ? Eh bien, ça dépendra de la nature de l'hypothèse retenue. Rien n'est écarté, mais rien n'est encore décidé non plus.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Colère et lassitude avec ces confinements à répétition, on le voit encore au Liban, pays déjà secoué par une crise économique sans précédent. Des manifestations ont éclaté dans le nord du pays pour la troisième soirée d'affilée. Des heurts avec la police ont fait plus de 200 blessés.
RTL, il est 8h05. Mariage annulé entre les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire et l'Italien Fincantieri.
Les bans avaient été publiés il y a 3 ans, mais la crise, notamment du marché de la croisière, est passée par là. C'est en tout cas l'argument avancé par les deux parties qui ont donc décidé hier soir de tout annuler. Bonjour Martial.
Bonjour.
On s'étonne quand même des réactions soulagées à la fois des syndicats et du maire de Saint-Nazaire. Alors pourquoi ? C'était une mauvaise idée ce mariage ?
Disons que le mariage, il était devenu un peu plus compliqué au cours des dernières années. D'abord, il y a effectivement l'activité croisière qui avait le vent en poupe en 2018 au moment de l'annonce des fiançailles et qui s'est complètement arrêtée ces derniers mois. Et si on compare avec le trafic aérien et le tourisme en général, on ne s'attend pas à un retour à la normale avant 2024. Donc les perspectives sont moins florissantes et même si on a un carnet de commandes plein à Saint-Nazaire jusqu'en 2025 voire 2030... on peut quand même redouter des annulations de commandes. Et puis ensuite, Fincantieri plus Saint-Nazaire, c'était le mariage de 2 des 3 fabricants de bateaux de croisière européens. Donc Bruxelles risquait de demander de démanteler le nouveau groupe pour éviter une position dominante, ce qui aurait bien sûr affaibli ce duo. Enfin, depuis 2018, Fincantieri s'était rapproché du chinois CSSC. Et on craignait qu'un certain nombre de secrets industriels de Saint-Nazaire ne partent en Chine. Enfin, je vous rappelle quand même que les constructions navales ont été renationalisées en attendant ce mariage. C'est l'État qui possède 84% de Saint-Nazaire. Et pour le personnel et les syndicats, c'est beaucoup plus rassurant d'appartenir à l'État que d'être acheté par un groupe privé. Donc, l'annulation du mariage maintient la situation actuelle qui convient finalement à tout le monde.
D'où ce grand ouf. Voilà. Merci beaucoup. Martial Youf.
Les deux roues qui circulent entre les voitures, c'est désormais bel et bien interdit. On va vous expliquer tout cela dans un instant. 135 euros, le PV.
RTL Matin. RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. L'expérimentation n'a pas vraiment été concluante.
Non, il s'agissait d'autoriser les deux roues, moto et scooter, à circuler entre les files de voitures. Un test fait depuis 5 ans. En Ile-de-France, dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône et la Gironde. Mais le bilan n'est pas bon puisque les accidents de deux roues ont depuis augmenté de 12% dans ces secteurs. Résultat, à partir du 1er février, donc dès lundi, ce sera interdit partout. Reportage d'Alexandre de Saint-Aignan près du périphérique parisien.
Vous avez peut-être pris l'habitude de les voir débouler par surprise dans vos rétroviseurs, moteurs hurlant, doublant par la gauche ou par la droite.
Justement, si on est en deux roues, c'est pour fluidifier le trafic.
Cyril est coursier. Au guidon de son scooter, il passe ses journées sur le périph' parisien.
Certes, c'est dangereux. Après, faut faire attention. Pour quelqu'un qui conduit tous les jours, on voit les comportements
On anticipe à l'avance.
Sauf que pour certains automobilistes comme Arnaud, l'interfile, c'est un cauchemar.
Même si vous mettez votre clignotant pour vous rabattre, ça leur convient pas parce qu'ils arrivent assez vite quand même. Si ça leur plaît pas, ils vous cassent un rétro, ils vous mettent un coup dans la portière ou ils vous insultent.
Le bilan est mitigé. Le nombre d'accidents en interfile a augmenté depuis le début de l'expérimentation. La seule solution qui semble mettre tout le monde d'accord, ce serait de créer une nouvelle voie uniquement dédiée aux motos et aux scooters.
Faire une file plus large pour qu'ils puissent se doubler entre eux.
Personne ne serait bloqué, il n'y aurait pas d'accident, il n'y aurait rien. Donc dans ce cas-là, ouais.
Une nouvelle expérimentation sera lancée dans les semaines qui viennent, mais d'ici là, les conducteurs de deux roues en interfile risquent en théorie une amende de 135 €, 3 points en moins sur le permis. Les policiers pourraient se montrer cléments, mais en cas d'accident, votre assurance, elle, pourrait bien vous considérer comme totalement responsable.
Alexandre de Saint-Aignan, il y en a beaucoup qui sont inquiets dans ce studio.
Quelque peu, oui. Des odeurs de pôle échappement aux embruns, direction les Sables d'Olonne, à l'arrivée du Vendée Globe.
Avec un suspense jusqu'au bout, victoire de Yannick Bestaven, le Rochelais, qui est arrivé pourtant après Charlie Dalin, mais il a pu bénéficier d'une compensation de chronomètre pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. On vous retrouve, Frédéric Veil, en direct des Sables d'Olonne. Bonjour.
Bonjour.
C'est l'épilogue d'une folle nuit, on peut dire ça ?
Oui, une nuit complètement folle, mais surtout inédite dans l'histoire du Vendée Globe, car c'est bien Charlie Dalin qui, vous l'avez dit hier soir, a franchi la ligne en premier. C'est ensuite Louis Burton qui a rejoint les Sables d'Olonne, et c'est donc Yannick Bestaven, arrivé troisième sur l'eau à 4h30 ce matin, qui remporte cette 9e édition au profit d'une bonification de 10 heures logiquement allouée pour s'être porté au secours de Kevin Escoffier fin novembre. Comme je vous le disais, c'est inédit dans l'histoire de cette course, comme l'est cette mésaventure survenue hier soir à Boris Herrmann. Il était 20h50, l'Allemand et ses 6 heures de bonification étaient encore en lice pour la victoire finale quand son bateau a percuté un bateau de pêche espagnol à 90 milles de la côte vendéenne. Il n'arrivera qu'en fin de matinée, déçu, dépité d'être passé si près de quelque chose d'historique. Mais au final, ce matin, ce que retiendra l'histoire, c'est un nom, Bestaven. Après Lamazou, Gauthier, Auguin, Desjoyeaux, Rioux, Gabaret, Le Cléache, le Rochelais s'invite pour toujours au glorieux palmarès de ce Tour du monde en solitaire.
Merci beaucoup Frédéric Veil. Pas loin de vous, à côté de vous même, il y a Patrice Gabart, toujours en direct des Sables d'Olonne. Alors dites-nous Patrice, qui est ce Bestaven, ce Yannick Bestaven, vainqueur de la 9e édition du Vendée Globe ?
Eh bien, Yannick Bestaven est un marin touche-à-tout, vainqueur de la Mini Transat en 2001 et une tête bien faite. Il tient là sa revanche, et quelle revanche ! Victime d'un dématage dès le début de son premier Vendée Globe en 2008. Le Rochelais, né à Saint-Nazaire, décide alors de mettre ses rêves de tour du monde entre parenthèses, le temps de se consacrer à la conception d'un hydrogénérateur pour équiper les bateaux. Et l'ingénieur de formation est aussi un entrepreneur à succès, ce qui lui permet d'acheter il y a 2 ans Safran 2, le premier bateau à foil, mis à l'eau à Lorient en 2016 pour participer donc à cette 9e édition du Vendée Globe. Il est copropriétaire de son bateau, c'est un poids immense au départ d'une telle course si difficile. Mais pas question de mettre le pied sur le frein pour limiter les risques. Yannick Bestaven livre alors une course pleine d'audace à l'image de son caractère. En tête au Cap Horn, il voit fondre son avance dans la remontée de l'Atlantique Sud. Il rétrograde à 5e place, mais pas question d'abdiquer. Une option se dessine, c'est la bonne. Avec ses 10h15 de bonification, on vient d'en parler, pour le sauvetage de Kevin Escoffier, Yannick Bestaven remporte le Vendée Globe au bout d'une dernière nuit de folie. Un rêve de gamin, un rêve inespéré au moment du départ, ce qui rend la victoire encore plus belle pour le père de Mona, 15 ans, et Loïs, 12 ans. C'est la consécration. Yannick Bestaven rejoint le club très fermé des vainqueurs du Vendée Globe et à 48 ans, c'est le plus âgé de tous, comme un message.
Merci beaucoup Patrice Gabart. Et puis en handball, les Français arrivent en demi-finale du Mondial. Ils ont battu la Hongrie dans les prolongations.
Histoire du jour,
Bernie Sanders, le sénateur américain dont la célébrité a été boostée par une photo. On le voit assis seul sur une chaise à l'investiture de Joe Biden, l'air maussade, emmitouflé, les mains dans des moufles énormes. Alors c'est vrai qu'il s'est vu un moment à la Maison Blanche. La photo a donné lieu à des milliers de détournements très imaginatifs. Bon joueur, Bernie Sanders a fait faire des produits dérivés avec cette image, des t-shirts, des pulls, des mugs, mis en vente sur son site internet. Tout est parti en 30 minutes. Énorme succès pour la bonne cause, puisque Sanders annonce qu'il reversera le fruit des ventes, près de 2 millions de dollars, à des œuvres caritatives.
Et c'était le journal de Jérôme Flora.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h14, on traque les fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Christophe Castaner a-t-il raison quand il affirme que le Sénat bloque la réforme pour la mise en place de la proportionnelle ?
Oui, hier, Yves, midi 52.
coup de tonnerre dans le monde politique. Philippe Basse, questeur du débat et sénateur LR de la Manche, envoie un tweet pour critiquer une déclaration de Christophe Castaner, chef des députés En Marche à l'Assemblée. Bon, c'est pas non plus la tempête du siècle, hein, mais les propos du sénateur sont intéressants, vous allez voir. Il crie à l'intox politique face à l'affirmation donc de Christophe Castaner le matin même sur France Inter.
Ce texte de loi a été présenté en Conseil des ministres. Il a été discuté, il est actuellement bloqué, on peut le dire ainsi, par le Sénat. Mais cette volonté, elle est la nôtre et elle est constante.
Voilà, depuis la semaine dernière, on sait que l'introduction d'une dose proportionnelle dans les scrutins législatifs n'est plus la priorité du gouvernement. Le sénateur affirme dans son message que le texte de la réforme constitutionnelle n'a jamais été bloqué par le Sénat pour la bonne et simple raison qu'il ne lui a jamais été présenté. Mais alors, est-ce de la faute de la crise sanitaire ou de la Haute Assemblée, comme l'affirme Christophe Castaner ? Eh bien, un peu des deux, et s'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Hein.
D'accord, la proportionnelle, c'est une réforme qui n'arrive pas à voir le jour. Hein.
Voilà, cette réforme, c'est un peu comme les amours de vacances. On y pense de temps en temps avec nostalgie, mais il s'efface peu à peu. La proportionnelle devenue le symbole des crises que traverse ce quinquennat. Le 10 juillet 2018, le projet de loi dit « Pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace », prévoyant d'élire 61 députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, eh bien, arrive à l'Assemblée. Et là, affaire Benalla. Bon, on arrête les débats. Examen interrompu et le texte donc n'arrive jamais au Sénat. En 2019, la France est secouée par le mouvement des Gilets jaunes. Mise en place du grand débat national, le président de la République évoque un scrutin proportionnel pour 20% des sièges au Parlement. Trois textes sont de nouveau présentés. Il est toujours à l'étude en commission à l'Assemblée et n'est pas d'actualité au Sénat. Donc, ce n'est pas le Sénat qui bloque cette réforme, mais il faut le dire également, la majorité LR n'a jamais caché son désamour de l'introduction d'une dose de proportionnelle. Gérard Larcher, président du Sénat, s'est lui-même dit favorable à l'introduction de la proportionnelle, par exemple, aux législatives, dans le journal du dimanche, en date du 10 janvier dernier.
Une dose de proportionnelle, cela figurait-il dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017 ?
Oui, en 2017, Emmanuel Macron promettait donc une dose de proportionnelle pour refléter, dit-il, le pluralisme. Voilà, une idée après le ralliement de François Bayrou à sa cause, le dirigeant centriste qui fait aujourd'hui le forcing, mais ça paraît difficile. Nicolas Sarkozy avait proposé une dose de proportionnelle en 2006 et 2012. François également en 2012, tous ont renoncé. Emmanuel Macron s'inscrit donc dans la tradition de ses prédécesseurs. Je crois qu'on en reparle en 2022.
Une toute petite précision, Gérard Larcher était favorable ou défavorable à l'introduction ?
Défavorable, pardon, excusez-moi.
Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup. Voilà, comme ça nous évitons les fake news au sein de la rubrique des fake news.
Ça aurait permis une chronique en même temps.
Merci Jean-Mathieu Pernin, à demain. Dans un instant, Michel Simès s'installe dans le studio et va nous expliquer pourquoi le nombre de naissances d'enfants prématurés est en très net recul dans notre pays.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous intéressez aux naissances d'enfants prématurés. Leur nombre a diminué depuis le début de la pandémie. Est-ce que c'est une simple coïncidence ?
Eh bien, c'est toute la question. Je peux vous dire que la communauté médicale planche sur le sujet dans pas mal de pays développés. Alors, j'insiste sur ce point car il a son importance. Vous allez vous en apercevoir. Mais d'abord, on fait le point sur les faits. Oui. Tout a commencé il y a quelques mois lorsqu'un médecin irlandais s'est aperçu que les commandes de lait maternel pour les bébés prématurés étaient en chute libre. Dans un premier temps, il pense qu'il y a erreur dans les chiffres, il se renseigne et constate qu'il n'en est rien. Il fait remonter l'info qui ensuite traverse les frontières jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est aussi le cas dans d'autres pays. Australie, Pays-Bas, Canada, États-Unis, dans tous ces pays qui sont socialement et économiquement similaires, nombre de médecins disent observer une dégringolade du nombre de nouveau-nés pesant moins de 1,5 kg jusqu'à 90% en moins.
Mais c'est faramineux. Il y a effectivement de quoi s'arrêter sur le phénomène. A-t-on des données concernant la France ?
Alors, elles sont encore embryonnaires, mais on en trouve ici et là. Récemment, c'est une clinique du département de la Marne, près de Reims, à Bézanne, qui parlait d'une chute des naissances de prématurés de 20%. Même chose dans le département de l'Aude, où le service de néonatologie de l'hôpital de Troyes évoque une baisse de 15%. Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions, mais il y a là un fil à tirer, ce que ne se prive pas de faire aujourd'hui les spécialistes des naissances prématurées, sans doute demain, les syndicalistes.
Ah bon, qu'est-ce que les syndicalistes viennent faire là-dedans ?
Eh bien, je vais vous expliquer. Pour nombre de spécialistes, cette baisse de naissances prématurées s'explique par les différents confinements et plus globalement le contexte de la pandémie, qui se sont traduits, nul ne l'ignore, par un ralentissement de la vie économique et de notre rythme de vie. Et pour les femmes qui travaillent debout, qui doivent parfois porter de lourdes charges ou passer des heures dans les transports, eh bien l'effet a sans doute été bénéfique dès lors qu'elles portaient un enfant. Moins de stress, plus de repos, ça aide. Il y a fort à parier que ceux qui se préoccupent des conditions de travail, en l'occurrence c'est en partie le boulot des syndicats, le sujet risque d'être inspirant dans les mois à venir. Il se pourrait même que s'ouvre un débat sur la durée du congé maternité, oui, qui commence actuellement 6 semaines avant la date prévue de la naissance, en tout cas pour les salariés du privé et pour les 2 premiers enfants.
Alors, l'une des conséquences de la pandémie, autre conséquence, hein, c'est la diminution de la pollution atmosphérique.
Parfaitement. Et là encore, il est avéré que la pollution est particulièrement néfaste pour les femmes enceintes et les bébés à naître. Nous avons là tous les ingrédients d'un débat aussi social qu'environnemental qui pourrait d'autant plus facilement éclore que les naissances prématurées se traduisent souvent par des drames familiaux et systématiquement par des coûts supplémentaires pour notre système de santé.
Passionnant. Merci beaucoup Michel et à demain. À demain. Il est 8h21. Dans un instant, c'est le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière qui sera avec nous. Yves Verrier va nous donner le pouls de ses adhérents alors que la menace d'un nouveau confinement plane sur le pays. A tout de suite.
RTL. Toujours avec vous. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
8h23, bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, je le rappelle. On va être très direct, vous allez être consulté à propos du nouveau confinement. Qu'allez-vous dire au Premier ministre? Qu'avez-vous envie de lui dire?
Ben, je vais lui dire ce que je pense la plupart ressentent. Tout le monde a envie qu'on sorte de là. Mais qu'on sorte de là à la fois du risque de cette épidémie, du Covid, de le contracter ou de le propager, mais aussi qu'on sorte de cette situation où on ne peut pas travailler, où on est en activité partielle, où on est en train de discuter du risque de perdre son emploi. Moi, j'ai beaucoup de secteurs, les hôtels, cafés, restaurants, les saisonniers autour des sports d'hiver, enfin de toute l'activité touristique, qui ne demande qu'une chose, c'est de retravailler. Donc voilà, c'est cette contradiction dans laquelle on se situe. En même temps, il faut absolument que j'ai les personnels hospitaliers qui me disent il y a des tensions à l'hôpital. Il faut absolument qu'on freine, qu'on arrête la propagation de l'épidémie. Il y a le variant qui inquiète tout le monde. Donc il y a une inquiétude multiple, l'inquiétude du virus, l'inquiétude pour l'emploi, pour l'activité. Et donc c'est ça cette difficulté. Maintenant, c'est vrai que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Le premier confinement a été accepté parce que c'était soudain et puis voilà. Sauf qu'aujourd'hui, la différence avec le premier confinement, c'est que tout un chacun connaît autour de soi quelqu'un qui a eu le virus et parfois avec des complications quand ce n'est pas plus grave.
Quel est l'état d'esprit de vos adhérents? Qu'est-ce qui vous remonte comme information?
Il y a un état d'esprit qui est que, vous savez, on a dit le quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est que ça coûte déjà beaucoup, et notamment aux salariés. Ça coûte à ceux qui ont été surmobilisés. Heureusement, on a réussi à négocier pour tout le secteur de la santé. On est en train de poursuivre sur le secteur du social, du médico-social, les 183 euros pour tous, plus des dispositions qui améliorent. Il y a tous ceux de la deuxième ligne, dont on a beaucoup parlé, le secteur du transport, le ramassage des ordures, les emplois à domicile. Donc ça, c'est en train d'être discuté au sein du Ségur, enfin du secteur du social, du médico-social. Les caissières qu'on a envoyées au front sans protection au début, ils attendent une reconnaissance qui aille au-delà des applaudissements, parce qu'on sait qu'on les sollicite constamment, couvre-feu ou pas couvre-feu.
Vous ne remettez pas en cause de quoi qu'il en coûte?
Non, ce que je dis, c'est que ça coûte déjà beaucoup aux salariés qui perdent leur emploi, qui sont en activité partielle. Vous savez, il y a des secteurs où ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on est en activité partielle. Psychologiquement, c'est très dur. Dans le secteur aérien, dans le secteur de l'aéronautique. Et puis, il y a tous ceux dont on ne parle pas, qui sont dans la sous-traitance et qui, là, sont plutôt concernés par des plans de suppression d'emplois.
Ça veut dire que vous comprenez que le président de la République prenne un peu de temps avant de choisir et que, de toute façon, on aura un équilibre imparfait, mais où il faut absolument préserver une bonne partie de notre activité économique et puis essayer de respecter un certain nombre de règles sanitaires.
Oui, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Est-ce qu'elles ont été prises? Moi, il y a un problème sérieux, c'est le vaccin. Je pense que tout le monde attend qu'on se sorte avec le vaccin. Et je pense qu'on a peut-être été insuffisamment volontariste au départ. parce que on se disait il y en a qui sont contre le vaccin, etc. Moi, je pense qu'il faut accélérer sur le vaccin. Il faut sans doute être beaucoup plus strict quant à la réquisition potentielle d'unités de production. Je trouve que, par exemple, Sanofi a mis du temps à nous dire qu'il allait mettre à disposition ses unités de production plutôt que de nous dire qu'on va se séparer d'emplois dans la recherche-développement. Il vaut mieux se concentrer sur la production des vaccins. Donc ça, il faut une meilleure coordination et accélérer la production des vaccins, accélérer la vaccination.
Je fais une parenthèse qui n'en est pas une, hein, parce qu'on annonce bien entendu des faillites, des licenciements. On a entendu l'extrême malaise de beaucoup de petits patrons ce matin sur notre antenne. C'était un reportage très émouvant. Et on apprend que la chaîne de restaurants Flunch flanche et que le groupe annonce vouloir se séparer de 1300 salariés et fermer 60 restaurants. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Je trouve ça écœurant. Ce sont des grands groupes, c'est une famille très riche chez Auchan. Hein, on sait que c'est un secteur, d'ailleurs, c'est à Auchan aussi, la grande distribution qui a fonctionné pendant toute cette période où on annonce des suppressions d'emplois également. Je trouve ça inacceptable. Et nous l'avions souvent dit du gouvernement, justement. Moi, ce que j'attends, c'est un contrôle beaucoup plus strict de la du comportement des entreprises, notamment quand elles perçoivent des aides publiques et qui, malgré tout, suppriment des emplois. Flunch, par exemple, la période devrait être utilisée puisqu'il y a de l'activité partielle. On a milité pour qu'il y ait cette activité partielle. Elle est prise en charge dans les secteurs qui sont arrêtés à 100% pour les entreprises. Les salariés, eux, sont à 84% du net. Ça fait quand même déjà du pouvoir d'achat en moins. Eh bien, qu'on utilise cette période pour prendre le temps de regarder comment on préserve les emplois. Flunch, c'est pas nouveau, mais le Covid, la crise sanitaire, encore une fois, c'est un prétexte pour accélérer des restructurations qui auraient dû être anticipées pour les éviter.
On reste dans les grandes entreprises. Yves Verrier, on a appris que l'offre de rachat des chantiers de l'Atlantique du port de Saint-Nazaire tombait à l'eau. Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que vous demandez des garanties pour l'emploi au gouvernement ?
Premièrement, je m'en félicite. J'ai réagi tout de suite. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que depuis la première vente, nous avions milité, nous, pour que l'État monte au capital. L'État est majoritaire et nous étions opposés à la vente à Fincantieri parce qu'on savait qu'il y avait un contrat avec les Chinois et un risque derrière de transfert de technologie, de marché. Et deux, le fait qu'on est aujourd'hui, et particulièrement dans la situation actuelle, c'est un fleuron de l'industrie quand même, les chantiers de l'Atlantique, en matière de construction navale. On va y construire le nouveau porte-avions, on y construit les plus gros navires de croisière, et on y fait d'autres activités pour justement diversifier l'activité. Le fait que l'État soit majoritaire aujourd'hui aide beaucoup à mobiliser les banques parce que c'est des investissements à long terme et à rassurer les potentiels clients, armateurs, parce que ce sont des chantiers de long terme. Donc, moi, je me félicite. J'ai été sur place au mois de décembre et janvier avec mon syndicat. On a rencontré tous les élus politiques. J'ai eu des contacts avec le ministre de l'Industrie. Je me félicite de cette situation aujourd'hui.
En vous écoutant, je me demande si vous n'êtes pas favorable carrément à une nationalisation pour que les choses soient claires.
On y est. De fait, l'État est majoritaire aujourd'hui. Dans la situation actuelle, je pense, a fortiori, vu les incertitudes sur le plan de l'activité et dans un contexte où on nous dit le plan de relance doit favoriser la réindustrialisation de ce pays, la moindre des choses, c'était qu'on ne laisse pas partir cette industrie ailleurs. Et ça vaut dans d'autres secteurs. J'ai d'autres, les ex-chantiers navals de Toulon, ce qu'on appelle la CNIM aujourd'hui, qui sont dans une situation différente parce qu'ils ne font plus de navires, mais qui risquent là aussi de voir entrer des Chinois. Et je pense que l'État, et on sollicite beaucoup l'État, pour préserver les emplois dans ce secteur également.
Merci beaucoup Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Et bon travail. Dans un instant, Louis Baudin et la météo à 7 jours.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock.
Laissez-vous tenter.
Je vous propose ce matin un voyage au cœur de notre patrimoine cinématographique. Vous allez découvrir comment et pourquoi une équipe de spécialistes travaille en ce moment à la restauration du film Napoléon, le chef-d'œuvre d'Abel Gance, sorti en 1927. Une fresque en noir et blanc, dernier monument du cinéma muet qui, près d'un siècle après sa sortie, va retrouver une nouvelle jeunesse et toute sa splendeur, ou plutôt toute sa majesté. L'opération Napoléon, c'est à 9h sur RTL dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
8h33, merci d'écouter RTL. Nous allons lancer notre grande fresque météo de 8h33 avec vous, cher Louis Baudin. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu anxieux.
Je vous disais, on va finir par moisir. Hein. Si on continue tellement l'humidité est là, et va être encore là ces prochains jours. Donc on l'a dit aujourd'hui, c'est fait. Hein. Nuages, pluie pour tout le monde, neige en montagne, risque d'avalanche, risque d'inondation même dans les Alpes avec la fonte liée à la hausse des températures. Hein. Pour le coup, spectaculaire, 10 à 15 degrés, pas moins dans la moitié nord, et 14 à 18 dans le sud. Demain, ça continue. Nouvelle perturbation va traverser toute la France. Nuages, pluie, neige en montagne, sauf tout près de la Méditerranée. Peut-être une petite accalmie l'après-midi. Je dis bien des accalmies parce que samedi, ça recommence. En voilà une autre. Avec du vent fort, on aura une petite tempête samedi qui va traverser la France et notamment la moitié sud avec des rafales qui approcheront les 100 km/h sur le littoral. Nuages, pluie, neige en montagne. Dimanche, ça continue. Alors peut-être là aussi une petite accalmie au nord de la Loire, très temporairement, mais ça ne durera pas longtemps. Lundi, une nouvelle belle perturbation va traverser toute la... Il y en a pour tout le monde, hein, sauf tout près de la Méditerranée. Et puis, je continue comme ça, mardi, mercredi, jeudi, ça continue. Donc voilà pourquoi je vous dis, on risque de moisir si on ne fait pas attention. Parce que, beaucoup d'humidité. Alors bon, ce qui est moins drôle, c'est qu'on va surveiller quand même des risques d'inondation. Parce qu'il y a
La question que j'allais vous poser.
Voilà, il y a beaucoup de bassins versants qui risquent de déborder, notamment en deuxième partie de semaine.
Je trouve que la Seine est très haute en ce moment.
Seine, la Garonne, l'Adour, par exemple, sont des rivières et des fleuves qu'il va falloir surveiller.
De la pluie. Merci Louis Baudin. RTL, 8h34.
RTL, vous êtes comme ça.
La fameuse Green Week, la semaine verte, nouvelle étape de notre semaine. Ce matin, dans un petit village de la Marne. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez au pied de l'arbre de l'année 2020, lauréat d'un concours avec l'ONF, l'Office National des Forêts, qui désigne depuis 9 ans les plus beaux arbres du patrimoine français.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre.
Bienvenue à Boulle-sur-Suippe, à 15 km au nord de Reims. Ici, on ne voit que lui, ou plutôt elle, car l'arbre a son surnom, c'est ce que nous raconte Amandine Pollet, native de Boulle. C'est elle qui a inscrit l'arbre au concours.
Alors ici, dans le village, si vous demandez la route à un passant pour aller voir le peuplier, il ne vous répondra pas. En revanche, si vous demandez la pouplie, il saura, puisque depuis toujours, elle s'appelle la pouplie. Ça vient de pouplier en patois. C'est une essence rare, le peuplier noir. C'est un arbre isolé, c'est aussi pour ça qu'il est si gros. On croira un arbre sorti d'un conte de fées. Souvent, je dis, qui fait penser aux arbres Tolkien ou du Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. C'est vrai qu'il est assez incroyable, c'est extraordinaire. Sa taille, quand on est à côté, on se sent minuscule. Et puis, je crois que les gens ont vraiment été touchés par cette initiative individuelle de vouloir sauvegarder le patrimoine naturel si important pour notre avenir.
Elle a au moins 200 ans, la pouplie, 37 mètres de haut, un tronc de 12 mètres de circonférence, des branches énormes, des ramures noueuses à souhait. Elle est écrasante, elle est rassurante, intimidante, rafraîchissante.
Alors, ce qui est merveilleux quand arrive le printemps et l'été, c'est tous les chants d'oiseaux. Là, on en entend un petit peu. Mais dès que l'arbre est feuillu, y a toute une vie à l'intérieur. Il est véritablement quelque chose d'important.
Jean-Claude Georget, qui en parle si bien, préside le collectif Boulle Environnement. Tout le monde ici veut préserver cet arbre que les classes de Boulle ne manquent pas de visiter pour les leçons de choses.
On a été voir l'arbre, il était vraiment très grand quand même.
Je préfère pas que les arbres y meurent parce que moi j'ai trouvé ça triste et j'ai pas envie que la poupie soit morte.
En fait, l'arbre m'impressionne parce que il est géant et aussi, c'est le plus grand arbre de France.
La petite Léna n'a sans doute pas tort, de tels monuments sont devenus très rares dans le paysage français.
Et ce concours, Samuel, est en train d'avoir un effet tout à fait inattendu et bénéfique d'ailleurs, sur l'arbre et le village tout entier.
Oui, si Amandine Pollet a inscrit la pouplie au concours, c'est qu'elle a failli disparaître en 2018 après un début d'incendie causé par un pétard du 14 juillet. La pouplie est de plus sur un terrain privé et constructible, mais voilà que la situation se débloque, comme l'explique Jean-Claude Georget.
Le concours, véritablement, a été quelque chose qui a accéléré le processus et qui faisait qu'un arbre élu arbre de l'année, comment voulez-vous l'abattre ? Quelque part, c'est pas possible. Je veux dire, il y aurait une telle mobilisation et pas uniquement que de nous, villageois. J'ai appris par notre boulangère qu'il y a des personnes qui venaient, une dame d'Épernay est venue récemment pour voir cet arbre. Parce que le fait de l'avoir vu aussi à la télé, de se rendre compte comment cet arbre est beau, comment il a une ramure imposante, les gens se disent, mais oui, c'est tout près de chez nous, on va venir voir.
Démonstration au moment même de cette interview quand débarque Jean-Marc.
J'avais envie de me promener un petit peu avec ma moto, puis je dis, tiens, je vais faire un tour là-bas. Hein. Il a quand même remporté le prix, c'est ça. Donc j'ai dit, ça vaut le coup d'y aller. Hein.
Et alors, il vaut le détour ?
Ah oui, complètement. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Hein. Et puis bon, dès qu'on s'approche, on voit quand même que c'est un phénomène, quoi. Impressionnant. Hein. Je reviendrai quand il aura des feuilles, quand même, maintenant que je le connais.
Un phénomène qui pourrait ne faire que commencer, à tel point que le maire de Boule a conclu un accord pour un échange de terrain avec le propriétaire de la Poupli. La mairie va pouvoir aménager les abords et créer un arboretum pour protéger définitivement ce monument végétal.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter les yeux.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. Toutes les informations sur la Semaine Verte sont disponibles sur notre site rtl.fr et nous étions ravis de rencontrer ce matin et ce village et cet arbre.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h39 et en ce jeudi matin, Isabelle Choquet, gros plan sur une femme devenue une héroïne en Irlande, une petite grand-mère qui a déterré à elle seule un énorme scandale.
Oui, la mort de 9000 enfants dans les maisons pour mères et bébés entre 1922 et 98, on en a parlé récemment. Cette femme s'appelle Catherine Corless et sa ténacité a forcé l'État et l'Église à reconnaître leurs responsabilités. M, le magazine du Monde, a voulu en savoir plus sur elle. Direction donc le comté de Galway dans l'ouest de l'Irlande. C'est là que vit Catherine Corless dans sa ferme de Tuam. Catherine a 66 ans, c'est une gentille mamie un peu sérieuse. Elle a toujours vécu ici et quand elle était enfant, comme tous les gamins du coin, elle connaissait le home, une bâtisse sinistre entourée de murs gris tenue par les sœurs du Bon Secours depuis les années 20. Ça a fermé en 61. Catherine Corless se rappelle bien des enfants du home. Ils étaient très calmes, peureux et misérables, dit-elle. À l'école, ils étaient placés au fond de la classe, on ne leur adressait pas la parole. Un souvenir la poursuit particulièrement. Un jour, pour imiter une blague, elle a tendu à une petite fille, un vieux papier de bonbons vide. Sur le moment, j'ai trouvé ça drôle, mais avec les années, j'ai compris l'impact de ce geste pour ces enfants qui n'avaient jamais de douceur, même pas à Noël. Cela m'a hantée, c'est ce qu'elle a raconté à la BBC. Catherine travaille comme secrétaire dans une usine textile, puis elle s'arrête pour élever ses quatre enfants. Et un jour, au début des années 2010, elle fait une découverte qui l'intrigue. Un petit sanctuaire avec quelques fleurs et un ours en peluche, aménagé sur le site du home. Elle est passionnée d'histoire et de généalogie, elle a même suivi des cours du soir. Elle apprend qu'en 75, en déplaçant une plaque de béton, deux garçons qui jouaient là ont découvert des petits squelettes au fond d'un trou. La rumeur prétend qu'il s'agit de gamins morts de la grande famine au 19e siècle, mais l'historienne en herbe a un doute, alors elle commence à mener l'enquête. Au siège des Sœurs du Bon Secours, à Cork, on lui répond que non, les registres du home de Tuam n'existent plus. Au conseil du comté à Galway, chou blanc aussi, on lui refuse l'accès aux documents sous prétexte qu'elle n'a pas de diplôme universitaire. Personne ne voulait savoir, dit-elle, j'étais en colère, c'est ce qui m'a motivée. Notre Miss Marple irlandaise ne se décourage pas. Elle obtient les plans du cadastre, elle consulte des cartes anciennes. L'état civil de Galway finit par lui répondre « Oui, il existe des certificats de décès d'enfants du home. » Pour les obtenir, il faut payer 4 euros par certificat. Et Catherine paye au fil des mois pendant 2 ans. Il y en a 796 au total. Des nouveau-nés et des enfants morts de pneumonie, de négligence, de malnutrition. Ils n'ont jamais plus de 9 ans. Catherine vérifie dans les cimetières du comté, aucune trace de sépulture. Elle en est convaincue, les restes humains retrouvés près du home, ce sont ces enfants-là. En 2014, ces découvertes font enfin la une de l'Irish Mail on Sunday. Le gouvernement irlandais est au pied du mur, il lance une enquête et il ordonne des fouilles qui lui donnent raison. Catherine Corless n'en veut pas aux gens du coin qui n'ont jamais parlé, mais plutôt à l'Église. C'est elle qui a dit que le sexe hors mariage était un péché, qui blâmait toujours les femmes, jamais les hommes, qui a martelé ça dans la tête des gens. On découvre alors que c'est un secret de famille qui l'a poussée dans ses recherches. Après la mort de sa mère, elle a découvert qu'elle était une enfant illégitime, née hors mariage. La bonne fée des enfants oubliés d'Irlande, c'est un beau portrait paru dans M, le magazine du Monde.
Et c'est très émouvant. Merci beaucoup Isabelle Choquet. On se retrouve demain matin.
À demain.
Et dans un instant, Laurent Gérard est avec nous.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Jeudi matin, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Malgré un contexte sanitaire très particulier, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a annoncé pas moins de 4 mouvements de grève pour la semaine prochaine. Bonjour Monsieur Martinez.
Bon ben qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait des mois qu'on ne peut plus appeler les travailleurs à la grève à cause qu'ils ne travaillent pas.
Vous voulez parler des transports?
Que les transports, c'est un bon exemple de notre raisonnement. Que je m'explique.
Oui.
Que si qu'on fait grève dans le métro, mais qu'il n'y a pas de voyageurs parce qu'ils sont en télétravail, qu'il n'y a personne qui va être emmerdé. Et ça, nous, on est contre à la CGT.
Oui, les mesures d'accompagnement promises par le gouvernement ne vous semblent pas suffisantes, donc.
Que le gouvernement, avec ses mesures, il nous enlève le pain de la bouche. Que si ça continue, qu'on ne peut pas appeler à la grève, C'est nous autres à la CGT qu'on n'aura plus de travail. Donc qu'on n'est pas d'accord avec Jean Durex.
Non, Jean Castex, hein, vous voulez dire. Ah,
Durex, Castex, Pyrex, Kleenex, tout ça c'est Bonex blanc et blanc Bonex. Oui.
Bon, en résumé, vous appelez à la grève cette semaine pour obtenir quoi?
Que nous autres, à la CGT, on fait la grève pour que le travail reprenne tout de suite et qu'on puisse faire la grève normalement.
Les nouveaux variants du coronavirus n'en finissent pas d'inquiéter. Les épidémiologistes ont fait le point sur cette possible nouvelle menace avec l'immense vulgarisateur scientifique Hubert Reeves. Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour.
Bonjour. Faut-il craindre ces virus mutants ?
Vous savez, en tant qu'astrophysicien spécialiste des mystères de l'univers et des trous noirs, j'ai appris à me méfier de toutes les formes de mutations génétiques.
Oui.
Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au cargo spatial Nostromo?
Pas bien.
Non. Il rentrait vers la Terre avec sa cargaison de minerais intersidéral, puis ils ont capté un signal sonore émis depuis un corps interstellaire inconnu.
Ah oui, mais tiens, ça me dit quelque chose. Ils sont allés voir qui émettait le signal, c'est ça?
C'est bien ça.
Oui.
Ils ont découvert des œufs dans une grotte et quand ils se sont approchés des œufs, une bestiole s'est accrochée à leur nez comme un coronavirus, mais en plus gros avec des pattes. Puis après, ils ont mangé des spaghettis, puis il y en a un qui s'est mis à tousser, il y a la bestiole qui lui est sortie du ventre.
Ah oui, mais ça me revient, mais ça, c'est dans le premier épisode d'Alien, ça.
Ben oui.
Mais quel rapport avec les variants du coronavirus, Hubert Reeves?
Oui. En tant que scientifique vulgarisateur, je suis obligé de vous donner une image pour vous expliquer qu'après le variant anglais, le variant brésilien, le variant sud-africain, on pourrait bientôt avoir le pire des variants, un variant intergalactique du coronavirus. Ramené sur la Terre par un cosmonaute qui ne s'est pas lavé les mains et qui n'a pas éternué dans son coude.
Aïe, mais qu'est-ce que vous nous conseillez de faire?
Ah ben, évitez de mettre votre nez dans des œufs inconnus. C'est jamais ce qui peut en sortir.
Sage conseil. Oh, oui. Heureusement qu'il y a les vaccins, quand même.
En tant que scientifique scrupuleux, je suis obligé de vous dire qu'il faut se méfier du vaccin russe, le Spoutnik.
Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a qui vous déplaît, ce Spoutnik?
C'est une sphère en métal d'un mètre de diamètre qui contient une chienne.
Le gouvernement.
Leica, je crois.
Leica.
Ah, la pauvre. Oh, oui.
La pauvre Leica. Gouvernement... Plus malaudant.
Le gouvernement a promis des repas à 1 euro à tous les étudiants. Nous sommes justement avec un étudiant. Bonjour MC Bata.
Bonjour Madame RTL.
Ah, vous êtes étudiant en quoi?
En master de culture hip-hop à Nanterre.
La situation est compliquée pour vous?
Ouais. Parce que mes cours de niquage de police, ils ont sauté avec le pain de mie.
Le pain de mie?
Bah ouais, le pain de mie de Covid-19.
Ah, l'épidémie!
Ouais, c'est vrai, Madame Martel. Me corrige pas mes mots comme une colonialiste. C'est interdit, c'est la prof de victimisation qui m'a dit.
Désolé, MC, dites-nous plutôt ce que vous pensez des repas à 1 euro offerts par Emmanuel Macron.
Ouais, parce que gardez ce bouffon. Je fais pas la manche. Je peux m'acheter tous les kebabs que je veux avec le tushy que je vends dans la Tessie.
Je me demande si vous êtes vraiment représentatif de la population estudiantine.
La population quoi?
Non, rien.
Non.
Les personnalités de gauche présidentiables multiplient les initiatives personnelles en vue de 2022. On en parle avec l'ancien président socialiste François Hollande. Bonjour Monsieur Hollande. Et tout d'abord, bonne année.
Bonne année, Christinas.
Ah.
Bonne année Yves Rocher. Bonne année à tous les auditeurs de France Bleu Luxembourg.
Oula, merci pour eux. Revenons à la situation politique à gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces personnalités de gauche qui se positionnent en vue de la prochaine présidentielle?
Il y a trop de monde. On se croirait devant un centre de vaccination. Bientôt, ils vont s'entretuer pour avoir leur investiture.
C'est vrai qu'ils sont nombreux, vos amis. Reprenons-les un par un. Hein, d'accord. Votre d'accord. Avis sur Anne Hidalgo, par exemple?
La simplette des trottinettes.
Arnaud Montebourg?
Le piqué de la ruche.
Christiane Taubira?
La grande gueule à vélo.
Ségolène Royal?
La siphonnée des deux pôles.
Benoît Hamon?
Le petit chose.
Olivier Faure?
Je ne connais pas.
Oui, du coup, il ne reste pas grand monde à gauche pour 2022.
Si, il reste à la gauche un homme d'expérience, un séducteur invétéré, un cador incompris. Qui a pris du recul dans sa maison de Tulle, ça rime, et qui a beaucoup travaillé avec son think tank Terra Nova.
Vous parlez de vous, je présume, François Hollande?
Ce n'est pas à moi de le dire, car je suis un président normal.
Oui, c'est
mais
vrai.
Si la France me supplie à genoux, je réfléchirai. En attendant, j'écris des best-sellers qui s'arrachent dans toutes les maisons de la presse.
En l'occurrence, votre dernier best-seller s'intitule « Quand ça va, quand ça va pas », l'état expliqué aux jeunes et aux moins jeunes, c'est ça ?
Oui ! Un album tout en couleurs illustré par Laure Monloubou. En écrivant ce livre, j'ai appris plein de choses sur le boulot de président. C'est pourquoi, si la France veut faire un tour de scooter avec moi, je suis prêt. Allez, on oublie les tocards, on saute sur ma selle et en voiture, Marianne.
Joe Biden a nommé une femme transgenre au poste de ministre adjointe de la Santé des États-Unis. C'est le sujet du nouveau numéro de Doigt de réponse, l'émission de débat de Patrick Sébastien.
Salut à tous, .tes, et bienvenue dans Doigt de réponse, l'émission qui met un doigt au patriarcat. Aujourd'hui, on va parler de Rachel Levine, c'est comme ça qu'on dit ?
Bonjour Rachel.
Ouais, Rachel Levine, la nouvelle ministre transgenre du gouvernement américain, avec Jacqueline Delarey, présidente d'Osel Clitorisme, et Alain Finkielkraut, monsieur Finkielkraut, qui est déjà en train de se tortiller et de gigoter sur sa chaise. Mais une seconde, mon Finky, on a une émission... Maintenant féministe, c'est à la mode. Donc honneur aux bonnes femmes. Qu'est-ce que t'en penses, ma jacouille ?
Eh bien, après avoir nommé une femme noire vice-présidente, Joe Biden nomme une femme transgenre, et c'est une bonne nouvelle pour les minorités. Mais il faut aller plus loin et nommer des véganes, des asiatiques et des latinos.
Poilero Peuplo, et toi mon Finky, t'en penses quoi ?
Monsieur Sébastien, si chaque minorité doit être représentée dans le gouvernement américain, je suggère à monsieur Biden de nommer également des nains, des unijambistes, des roux, des bossus, des allergiques au gluten et des femmes à barbe.
Excellente idée, comme quoi tout arrive, je suis d'accord avec monsieur Finkielkraut.
Mais je plaisantais, enfin je plaisantais, pauvre conne.
Ah ben voilà, je crois qu'on a bien fait avancer la cause trans. On souhaite bon courage à Rachel Levine, hein. Levine, Levine, Raquel, je sais pas, ouais. On sait plus, qui va sans doute soigner les Américains avec de la margarine, et vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que la margarine, c'est bourré d'acide trans. Alors je vous fais des gros bisous à tous, .tes, et vous dis à la semaine prochaine, on essaiera de répondre à la question, l'unité nationale est-elle encore possible en France ? Avec Éric Zemmour et Rokhaya Diallo. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez bienveillants, putain. Et respectez les gestes barrières. Poil au derrière.
En fait, je pense qu'il n'y a rien à ajouter.
Un peu de poésie, monsieur.
Voilà, un peu de poésie.
Ouais, mais d'amour.
Merci pour ce débat passionnant que l'on peut consulter à tout moment sur le site rtl.fr. Et nous nous retrouvons demain matin.
À voilà. Demain.
Merci à toute l'équipe.
Salut.
Cyril Lignac nous a rejoint dans quelques instants. Eh bien, il va donner des conseils à un étudiant qui est un peu fauché et qui aimerait bien manger normalement.
Eh bien, on va l'aider.
À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Yves Calvi.
Alors, cher Cyril, ce matin, c'est un coup de main à nos auditeurs très sympa. Écoutez plutôt. Bonjour, je suis étudiant, donc fauché. J'ai un budget très, 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 très serré. Quel repas équilibré, bon, facile et surtout pas cher pour moi toute l'année. Mille merci pour votre aide précieuse. Bonne année, Louis le Stéphanois.
Eh bien, je vais arriver alors. Je vais aller l'aider directement chez lui. Comme ça, on va gagner du temps. Comme ça, quand il rentrera de l'école, je pourrai l'aider à faire à manger. Alors, des recettes très simples du quotidien que j'adore. Donc, y a des produits assez simples, pas très chers, de saison, les carottes, on a de la volaille, bien sûr de la crème, des champignons de Paris. On peut travailler des œufs, on peut travailler des épices. L'essentiel, c'est de twister un peu le quotidien avec les produits du quotidien.
Oui.
Donc, moi, j'ai une grande passion pour les carottes râpées.
Moi aussi.
Déjà parce que ça fait manger des légumes, c'est une entrée, c'est bon. Hyper nourrissant, bon. C'est bon, c'est croquant, un peu d'huile d'olive, du jus de citron, une petite vinaigrette. Voilà. Ça, c'est une première entrée. Et ensuite, on achète des escalopes de poulet, des escalopes de volaille, que je coupe en petits morceaux. Vous rigolez parce que j'ai mis des champignons et de la crème.
Oui, bah ouais, ça,
mais toujours.
La crème, chez vous, c'est une manie.
Mais parce qu'avec rien, enfin avec rien, avec un peu de crème, on fait une cocotte de volaille. On fait revenir le poulet avec des oignons. Mmh. On y ajoute des champignons, on met de la crème. À côté, on fait cuire des coquillettes. On met les coquillettes à l'intérieur, on a un super plat.
Petite tarte au sucre en dessert.
Petite tarte au sucre, une pâte qu'on achète avec un petit peu de sucre, des zestes d'orange.
Deuxième menu, il faut qu'on lui en glisse au moins deux.
Alors, j'avais remis encore des carottes parce que c'est ma grande passion. Oui. Mais on peut faire du pané, on peut faire du topinambour, on peut faire un petit velouté de légumes, potiron au cumin. Donc on fait revenir avec un petit peu de cumin, des pâtes, donc pâtes comme un risotto avec du bouillon, avec du jambon, du parmesan, c'est la pleine saison, du reblochon aussi. On peut déposer un peu de reblochon, faire gratiner au four. Les pommes, ça c'est un fruit que l'on adore, pommes au four, pommes avec un petit peu de beurre, du sucre qu'on cuit au four ou une compote de pommes, ça aussi c'est très bon.
Vous accepteriez un petit peu de beurre salé ?
Ah, j'accepte le beurre salé bien volontiers.
Parfait.
Et après, un de mes plats favoris, c'est le bouillon de nouilles avec de la sauce soja et un œuf. C'est-à-dire, je cuis un œuf mollet. Quand je l'ai cuit donc 6 minutes, ouais. Je l'enlève, je prépare un petit bain de sauce soja. Ouais. Je mets l'œuf à l'intérieur. Ça fait comme un ramen japonais. On le laisse pendant 2 heures. Et après, vous croquez l'œuf. Et il a ce goût de soja moelleux, ça c'est délicieux. Sur un bouillon de nouilles, donc on met un petit bouillon avec des petites pâtes à l'intérieur, et on agrémente avec des champignons, du lard, des légumes, comme on veut.
Banane caramélisée, j'ai vu en dessert.
Ouais, bon, c'est facile.
Faire, hein. On les donc, coupe en deux, à la poêle, un peu de beurre et du sucre dessus.
Exactement, voilà. Et un jus de citron pour l'aciduler.
Formidable. Vous me donnez un dernier petit...
Allez, un petit curry, moi j'adore ça, curry japonais. Parce que le curry japonais, il n'y a pas de viande. Donc on fait juste qu'avec des légumes, on fait revenir les légumes. On y met du curry, on y met du bouillon, on peut mettre un peu de tofu. Et pas de crème. Du bouillon, parce qu'on est... au Japon. Allez.
Formidable. Merci Cyril. À demain. RTL, il est 9h.